Vous écoutez
RMC. RMC, 7h-9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 6h58 et vous êtes bien sur RMC et RMC Story. C'est vendredi 29 mai, bientôt le week-end. Géraldine nous le dira dans un instant. Il va rester, la température va rester chaude jusqu'à dimanche, mais à partir de dimanche, ça va se rafraîchir. Allez, on va parler immigration ce matin parce que l'Europe est censée durcir les conditions d'accès pour les étrangers à partir de la semaine prochaine. Que fera la France? Est-ce qu'elle va suivre les données et les règles européennes? La droite accuse le gouvernement de freiner, de rechigner. Le ministre de l'Europe viendra s'expliquer ce matin. Le ministre de l'Europe qui sera donc mon invité à 7h40. Et puis Michelin qui annonce 1500 suppressions de postes en France. L'activité n'est pas rentable. Voilà ce qu'explique la direction. En cause, le coût du travail. Et dans le même temps, les syndicats, eux, dénoncent la France des bas salaires. Est-ce qu'on peut encore produire en France? C'est le débat du jour sur RMC. Voix de droite, voix de gauche. Charles Consigny, Cécile Duflot. Ils débattront à 7h50. Mais n'hésitez pas, vous aussi, à nous appeler au 3216. Vous êtes salarié, vous êtes chef d'entreprise. Est-ce que vous estimez qu'on peut encore produire en France? Est-ce qu'il y a un problème de coût du travail? Le 3216 vous est ouvert et le WhatsApp d'RMC, 0612 424 424. L'invité du face-à-face à 8h30, c'est l'animateur Arthur. On connaît bien sa voix, on connaît bien son visage, on connaissait jusqu'à présent son rire et on découvre ses larmes et ses pleurs. Il se confie notamment sur l'antisémitisme, son mal-être, ses interrogations. Rendez-vous donc à 8h30 sur RMC et BFM TV. On parlera aussi du boycott des artistes. Ce sera donc à 8h30. Et puis ce matin, toute dernière chance pour gagner. Pour gagner des cadeaux exceptionnels, vous venez choisir un joueur parmi la liste des 26 des Bleus pour la Coupe du Monde. Il reste un chèque de 10 000 euros à gagner et puis des télés, des maillots, une alerte d'ici 8h, restez bien à l'écoute. Il est 6h59, dans un instant le journal et puis je vous le disais, la météo, Géraldine, continue à faire très chaud quoi, jusqu'à dimanche.
Oui exactement, c'est vraiment dimanche qu'on va sortir de la canicule. Alors on commence toutefois déjà à en sortir. La Bretagne, les Côtes-de-l'Anche ne sont plus en vigilance orange canicule. On garde 11 départements dans cette vigilance orange de la Loire-Atlantique et du Maine-et-Loire jusqu'à la Gironde. Toujours aussi Paris et la petite couronne. Donc la nuit qui a encore été très souvent étouffante. Cet après-midi, il ne fera plus que 20 degrés à Brest, c'est 10 degrés de moins qu'hier. Donc là, on voit quand même ce rafraîchissement qui arrive. En revanche, on ira encore jusqu'à 36 à Nantes, 35 pour Paris, Limoges, 34 à Bordeaux, Toulouse, Bourges, 33 à Lille, Lyon, Grenoble, 32 à Clermont-Ferrand, 30 à Marseille, avec encore beaucoup de soleil, mais ça va se voiler sur le nord-ouest et on peut avoir de gros orages, attention, du côté des Alpes.
Merci d'avoir choisi RMC. Excellent réveil à tous, il est 7h.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. On vient d'en parler avec Géraldine. La vague de chaleur qui se poursuit après un record absolu en France. Hier, on a frôlé les 38 degrés du côté d'Angoulême. C'est du jamais vu pour un mois de mai. Nous serons en direct de l'aéroport de Roissy dans ce journal. C'est là que les joueurs du PSG vont s'envoler pour Budapest dans la matinée à la veille de leur finale de Ligue des Champions face à Arsenal et sur les traces de Moïse Kwame. Qualifié pour le troisième tour de Roland-Garros à seulement 17 ans, du jamais vu depuis un certain Raphaël Nadal.
On va commencer à respirer un peu aujourd'hui.
Au septième jour de cette vague de chaleur, un peu d'air. Enfin, 11 départements restant en vigilance orange. Elle a été levée sur 6 autres. C'est le cas du Finistère. Comptait 20 degrés cet après-midi. Du côté de Brest, il en faisait 30 hier. Deuxième journée la plus chaude pour un mois de mai. Après celle de mardi, on a battu un record absolu pour un mois de mai. Je vous le disais, 37,8 degrés du côté d'Angoulême. Des températures excessives, difficiles à supporter comme en Occitanie où le thermomètre a explosé, Philippine Boulet.
Dans sa voiture, Justine étouffe. La température frôlait hier les 40 degrés. Un véritable enfer, dit-elle.
On a l'impression d'être au mois d'août, quoi. C'est vraiment une chaleur à mourir, quoi.
Elle vit à La Palme, une commune de l'Aude, au bord de la Méditerranée.
Après, bon, on a quand même la chance d'habiter une région où il fait assez souvent beau et bon, mais là, ça plombe. Et puis ça, enfin, moi, là, je sais que j'ai mal au crâne, quoi. Ça tabasse, quoi.
Seul horizon pour elle, se rafraîchir à la plage. Plus au nord, à Argeliès, le thermomètre a affiché 38 degrés, au grand dam de Jean-Claude, buraliste.
Les touristes, on les voit pas. Et même les habitués, pluie, on les voit pas du tout, c'est la cata. Hein. Et les clients ne viennent presque plus là, et c'est tellement chaud qu'ils se terrent chez eux.
Mais même en intérieur, la chaleur est difficilement supportable. À l'EHPAD de Le Cat, il fait jusqu'à 28 degrés dans les chambres.
Tout le monde est surpris par la chaleur. Puis les personnes âgées, on le ressent beaucoup plus que nous. Ils sont plus sensibles.
Alors, Andrea, directrice adjointe de l'établissement, s'adapte.
On a les tours d'hydratation qui sont accentués. On a modifié nos menus. Les plats chauds, on les a enlevés. On privilégie en fait les activités avec l'eau. Ils ont fait une bataille au pistolet.
Des habitudes qu'elle craint de devoir prendre de plus en plus tôt dans l'année en raison du réchauffement climatique.
Et dans ces conditions caniculaires, il est recommandé de ne pas pratiquer d'exercice physique aux heures les plus chaudes de la journée. Plusieurs événements sportifs sont de fait annulés ce week-end. Pas de risque pour les joueurs du Paris Saint-Germain qui profiteront d'une météo idéale. Demain soir à Budapest, une vingtaine de degrés sous un beau soleil pour cette finale de Ligue des Champions à vivre sur RMC. Demain, 18h face à Arsenal avec au commentaire Jean-Louis Tour, on vous retrouve, Jean-Louis, ce matin en direct de l'aéroport de Roissy à quelques heures du décollage des Parisiens. Ce sera Jean-Louis en milieu de matinée.
Oui, 10h10 précisément. Le départ de Charles de Gaulle, arrivée 12h30 à Budapest pour les joueurs et le staff. La direction et Nasser Al-Khelaifi arriveront eux dans l'après-midi. Ensuite, ce sera installation à l'Anantara New York Palace Hotel à l'est du Danube, dans la partie pest de Budapest. Puis direction la Puskás Arena pour la conférence de presse de Luis Enrique et d'un joueur à 15h30. L'occasion de mesurer l'état d'esprit de l'entraîneur, probablement serein pour ne pas ajouter de l'excitation à l'événement. C'était le mot d'ordre en interne ces derniers jours. À 16h45, les joueurs pourront fouler la pelouse de la finale pour le dernier entraînement, l'occasion de s'assurer que tout le monde est bien en forme, y compris Achraf Hakimi, de retour de blessure à la cuisse en début de semaine. Le Marocain a enchaîné les entraînements, il se sent prêt à démarrer le match et Luis Enrique pourrait ainsi faire débuter pour la première fois en Ligue des Champions cette saison les 10 mêmes joueurs de champ que sur la finale de l'année dernière.
Jean-Louis Tour, en direct de Roissy pour vivre cette finale. Rendez-vous sur RMC demain, journée spéciale jusqu'à 18h. Et le coup d'envoi de cette finale sous haute sécurité ici en France. 22 000 policiers et gendarmes mobilisés sur le territoire. 8 000 rien qu'en région parisienne où les habitants redoutent des débordements. C'est le cas notamment près des Champs-Élysées avec en tête Rachel Sadoudine les mauvais souvenirs de l'an dernier.
Dès qu'on parle du match, Mélina, 19 ans, qui vit dans un petit studio à quelques rues des Champs-Élysées, grince des dents. Demain, à partir de 18h.
Honnêtement, je vais pas mettre un pied dehors. Vaut mieux pas sortir, je pense.
Vous attendez à passer une nuit pas forcément très agréable.
Ouais, exactement. On s'attend à ce que les gens crient dans les rues, qu'il y ait des foules, qu'ils klaxonnent en voiture, enfin comme d'habitude, quoi.
Après la victoire du Paris Saint-Germain l'an dernier, le restaurant de Loredana a été vandalisé.
Les gens, ils ont cassé les vitres, ils ont rentré à l'intérieur, ils ont pris des boissons, voilà.
Résultat, Vincent, gérant de la brasserie voisine, a pris ses précautions.
On a des panneaux en métal pour mettre tout autour du restaurant pour éviter les bruits de vitres, etc.
Comme tous les établissements recevant du public situés sur l'avenue, le restaurant de Vincent a pour obligation de fermer dès 17h.
Donc on va s'organiser pour faire un service uniquement le midi. On va perdre un bon service de samedi soir, malheureusement. Entre 5 et 8 000 euros, peut-être.
Autorisé à rouvrir à 7h dimanche, il espère retrouver son restaurant intact.
Et en cas de victoire, demain soir face à Arsenal, le trophée sera présenté aux supporters dimanche au Champ de Mars pour une cérémonie au pied de la Tour Eiffel. Il est 7h05, vous écoutez RMC. Des procès en prison. Annonce de Gérald Darmanin, le ministre de la Justice prévoit la construction d'une grande salle d'audience au sein de l'établissement pénitentiaire de Fleury-Mérogis, prévu pour 2027. On en reparle dans le journal de 7h30. Un possible protocole d'accord de 60 jours pour l'extension d'un cessez-le-feu sur la table au Moyen-Orient. Rien n'est finalisé à cette heure. C'est ce que dit Donald Trump, qui maintient la pression sur l'Iran.
En fin de compte, un accord qui ne nous serait pas favorable, c'est ça le fond du problème. Parce que vous savez, je mène les négociations et on verra bien. Et c'est ce que je fais. Je négocie, eux aussi négocient. Ce sont d'excellents négociateurs. Ils sont rusés. Mais au final, c'est nous qui avons toutes les cartes en main, car nous les avons vaincus militairement. Leur marine a complètement disparu à 100%. Leur armée de l'air a complètement disparu à 100%. Leur armée, on l'a en quelque sorte et c'est tranquille, parce qu'on pense qu'elle est plutôt modérée. Ils ont d'autres gens qui ne sont pas modérés. On les a éliminés.
Un pays de l'OTAN visé par un drone russe, c'est ce qu'affirme la Roumanie ce matin. Une frappe sur un immeuble résidentiel qui aurait fait deux blessés légers à Galiti, ville frontière de l'Ukraine. Une sensation hier à Roland-Garros.
La première est bonne.
Il a gagné.
Ah, c'est bon. Yeah. Boris Kouamé est au troisième tour. Un joueur de 17 ans au troisième tour. Bon, ça n'est plus arrivé au Grand Chelem depuis Nadal en 2003.
L'exploit de Moïse Kwame sur les plats du plus grand joueur de l'histoire sur terre battue, Rafael Nadal, vous l'avez entendu. Il a encore enflammé Roland Garros hier, vainqueur de Valero au bout de l'effort en 5-7 sous une chaleur de plomb, suivi par ses premiers fans dans sa ville de Sarcelles, là où l'espoir du tennis français a tapé ses premières balles. Kevin Morand.
Oui, Abdel et Amy, 8 ans, s'entraînent sur la terre battue du tennis club sarcellois, comme Moïse Kwame quelques années avant eux.
Je suis choquée qu'à 17 ans, il est déjà Roland Garros. Ça montre que Sarcelles est un gros club. J'espère qu'il ira encore plus loin dans ses rêves.
Enzo, 9 ans, voit en Moïse Kwame un modèle et lui fixe un objectif.
Moi aussi, mon rêve, c'est de jouer à Roland Garros. J'espère qu'il va être en quart de finale.
Moïse Kwame a commencé le tennis à 5 ans dans ce club de la banlieue parisienne, où sa technique, même enfant, a marqué le président Éric Pessis.
Déjà tout petit, il était capable de faire des services kickés, ce qui est à cette catégorie d'âge absolument incroyable. On imaginait qu'il allait peut-être réussir et nous sommes très très fiers pour lui.
Sibiri Konaté, aujourd'hui conseiller municipal à Sarcelles, s'est entraîné avec Moïse Kwame et ses frères et sœurs dans leur enfance. Il compare la famille à une autre bien connue dans le tennis.
Oui, c'est comme la méthode Williams. La maman, c'était ça. Il dit, moi, mes enfants, je sais qu'ils arriveront à un certain niveau. À force de jouer avec ses grands frères et ses grandes sœurs, Moïse y jouait, il a développé des qualités indéniables.
Moïse Kwame a quitté Sarcelles dès ses 9 ans pour poursuivre sa progression, ce qui lui permet aujourd'hui de briller à Roland-Garros.
Il sera sur les cours demain, Moïse Kwame, ça passe aussi chez les dames pour Diane Paris à suivre aujourd'hui sur RMC et sur la radio digitale 100% terre battue. Quentin Ali s'opposait à Zverev, grand favori du tournoi, après l'élimination surprise hier du numéro 1 mondial, Yannick Sinner.
C'était le journal de Thibaut Texer, il est 7h08, il fait très très chaud, encore très très chaud, et jusqu'à dimanche. Thierry nous appelle de Charente, bonjour Thierry.
Bonjour Apolline.
Thierry, comment ça va? Vous êtes papa, je crois, et au collège, il fait très, très, très chaud.
Ah oui, il fait très, très chaud. Hier, mon fils, quand il est sorti du collège, il m'a simplement dit que dans la salle de cours, il faisait plus chaud que dehors.
Plus chaud que dehors, et il l'avait supporté, il en disait quoi?
Bah, ils n'ont pas le choix. Ils ont supporté tant bien que mal. On a eu un message comme quoi ils étaient autorisés à venir avec des bouteilles d'eau.
Ouais. Ouais,
c'est un minimum.
C'est un minimum, j'ai envie de dire. Ouais. Plutôt qu'autorisé, moi, j'aurais dit au minimum encouragé, voire quasi obligatoire. Ouais.
Et puis, il n'y a pas de courant d'air, c'est pas climatisé. Enfin, c'est les bâtiments qui datent des années, je sais pas, 60, 70, quoi, béton, avec des fenêtres qui s'ouvrent pas complètement. Enfin, comme malheureusement, 90% des établissements scolaires de France.
Ah, bah, les températures ont été relevées, classes hier, et c'est vrai, c'est très chaud, hein. Jusqu'à 50 degrés dans certaines classes.
Ce qui me met un peu hors de moi, et vous pouvez pas me dire le contraire, c'est que ces grands décideurs, tous ceux qui gèrent les écoles et tout, bah, eux, ils sont dans des petits bureaux bien climatisés. Et puis voilà, puis ils attendent que ça passe, ils sont bien.
C'est toute la question. Alors, ça se développe quand même, il faut le dire. Par exemple, la ville de Nice qui a lancé un grand plan pour mettre la clim dans toutes les écoles, c'est en train de se développer. Ça reste un clivage, y compris politique, et ça reste très cher. Mais ça évolue quand même, franchement. On ne peut pas dire en tout cas qu'il n'y a pas une prise de conscience. Après, je suis d'accord avec vous, il faut que ça passe à l'action. Merci beaucoup en tout cas, Thierry. Et vous pouvez dire à votre fils que ça ira mieux la semaine prochaine. Il est 7h10 sur RMC. La France freine-t-elle pour limiter l'immigration des hubs aux portes de l'Europe pour y renvoyer les migrants, renforcer les moyens pour renvoyer les déboutés de l'asile? Voilà ce que voudrait l'Union européenne, mais la France freine-t-elle? Bonjour Benjamin Haddad.
Bonjour.
Vous êtes le ministre délégué en charge de l'Europe. Une partie de la droite vous accuse le gouvernement de rechigner à appliquer ces règles de l'Union européenne. Vous nous direz dans un instant ce qu'il en est, le vrai du faux. Il est 7h10.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h14 et vous êtes bien sur RMC et RMC Story. La France va-t-elle devenir la passoire de l'Europe? Voilà l'accusation faite par une partie de la droite et notamment Monsieur Bellamy qui accuse le gouvernement de ne pas suivre l'Union européenne dans une manière de durcir sa position vis-à-vis de l'immigration illégale. Qui mieux que vous pour y répondre? Benjamin Haddad, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le ministre en charge de l'Europe. Est-ce que vous allez soutenir le texte qui est en train d'être travaillé, qui devrait aboutir dans les tout prochains jours du côté de l'Union européenne, qui prévoit notamment de durcir et de renforcer le renvoi des migrants qui n'auraient pas obtenu le droit d'asile?
Mais non seulement la France soutient ce règlement retour qui renforcera nos mécanismes pour pouvoir mieux expulser, mais en plus, c'est la France qui l'a demandé. Depuis 2018, on demande la révision de ce texte pour avoir plus de marge de manœuvre, par exemple, sur les rétentions administratives, sur les durées ou sur les causes de rétention, sur le fait de pouvoir faciliter les départs forcés et en faire d'une certaine façon la norme dans les départs, pour renforcer les motifs de fouille. Voilà, ça montre en fait une Europe qui sort de la naïveté migratoire, qui se donne les moyens de contrôler ses frontières extérieures, qui se donne les moyens de faire respecter ces règles. C'est tout ce que la France a toujours demandé. Nous avons eu une négociation, parce que vous le savez, ces sujets sont souvent très techniques. Il y a un certain nombre de mécanismes qu'il faut être capable de transposer aussi après dans le droit intérieur. Donc tout ça peut mettre du temps. Donc il y a eu une négociation entre les États membres, la Commission et le Parlement européen. J'ai bon espoir que nous aboutirons à un accord, un compromis dans les tout prochains jours. En tout cas, effectivement, c'est une
avancée importante. Alors, accord qui pourrait avoir lieu à Bruxelles, et puis ensuite, il faudra le retranscrire dans notre droit.
Vous ne vous y opposerez pas. Non, pas du tout, au contraire. C'est le gouvernement d'ailleurs qui le présentera. Il y aura quelques dispositifs qu'il faudra retranscrire et puis après il faudra bien sûr adapter nos moyens, nos dispositifs, ce qui est normal évidemment.
Je précise qu'aujourd'hui,
renforce les moyens face à l'immigration
irrégulière.
Aujourd'hui,
au niveau global de l'Union européenne, il n'y a que 20% des décisions d'expulsion qui sont véritablement suivies de fait. C'est-à-dire seuls 20% de ceux qui devraient être expulsés d'Union européenne le sont véritablement. Et parmi l'arsenal proposé donc par ce texte, il y a notamment l'installation de hubs, ce qu'on appelle des hubs, c'est des centres qui seraient aux portes de l'Union européenne, dans lesquels on renverrait dans un premier temps les étrangers dont les demandes d'asile ont été rejetées, avant qu'ils ne puissent retourner dans leur pays d'origine. Est-ce que vous y êtes favorable?
Alors, donc vous avez raison de le dire.
Une sorte de port de transition.
Alors, vous avez raison de le dire, il n'y a que 20% en fait, des OQTF qui sont exécutés au niveau européen. Et donc ce texte, il vise à renforcer nos moyens de lutte contre l'immigration irrégulière, à la fois sur le renforcement des motifs de rétention, sur le fait de pouvoir favoriser les retours forcés, sur le fait de renforcer les motifs d'enquête. Il donne aussi la possibilité aux États membres qu'ils souhaitent de faire appel à ce qu'on appelle des hubs, c'est-à-dire de pouvoir dans des pays tierces avoir des centres pour expulser. Bon, jusqu'ici, c'est vrai qu'on a été un peu sceptiques sur l'utilisation, pas pour des raisons morales ou politiques, je veux être assez clair là-dessus, mais sur leur efficacité d'un point de vue logistique et d'un point de vue
Si vous
coûts.
Les envoyez pas dans les hubs, que ferez-vous de ceux que vous souhaitez expulser en attendant qu'ils ne puissent obtenir un visa, un laissez-passer consulaire?
Non, mais c'est pour ça que ce texte donne la possibilité effectivement aux États membres qui le souhaitent de pouvoir avoir recours.
Mais j'entends dans vos mots, pardon, monsieur le ministre, mais j'entends dans vos mots que vous dites bon.
Je réponds à votre question.
Mais ça veut dire que la France ne l'utilisera pas.
Je réponds à votre question. Ça donne aussi des moyens. Et d'ailleurs, en plus des autres textes que nous sommes en train d'adopter ou que nous avons déjà adoptés au niveau européen pour renforcer notre réponse face à l'immigration irrégulière, de mettre plus de pression sur les moyens de départ et de transit à travers l'utilisation des visas, de l'aide au développement. C'est ce que nous sommes en train de faire. C'est plus fort quand on le fait à 27 pour pouvoir faire partir les immigrants.
Vous ne m'avez pas répondu sur le fait que la France, est-ce que ça veut dire que la France n'enverra pas? Ce texte vous donnera la possibilité de le faire, mais ensuite, est-ce que vous dites ce matin oui, on utilisera ces hubs ou non, on n'utilisera pas ces hubs?
Moi, je pense qu'il n'y a pas de tabou sur ce sujet. Jusqu'ici, la France ne l'a pas fait. Il y a, en fait, je crois que l'Italie qui avait essayé de le faire, mais qui pour l'instant n'a pas obtenu de résultat en utilisant ces hubs. Mais encore une fois, ce texte.
Vous ne vous interdirez pas la possibilité de renvoyer un certain nombre de migrants déboutés du droit d'asile dans ces hubs?
Mais je pense que pour l'instant, il ne faut rien s'interdire quand on veut lutter et faire respecter notre droit et lutter contre l'immigration irrégulière. Par ailleurs, je voudrais dire que si vous regardez les résultats qui ont été obtenus ces dernières années, l'immigration, les entrées irrégulières dans l'Union européenne ont diminué de moitié ces deux dernières années et ça continue cette année en 2026. C'est aussi parce que nous avons renforcé nos moyens. À la fois la coopération avec les pays de transit et de départ, à la fois le renforcement de Frontex, l'agence de contrôle des frontières extérieures de l'Union européenne. On montre que quand on est à 27, on obtient des résultats. Le Rassemblement national, pendant longtemps, nous a dit c'est impossible, il faut sortir, il faut prendre des mesures nationales, sortir des textes européens. Marine Le Pen avait dit que ses députés se battraient de toutes leurs forces contre ce règlement retour, qu'ils s'y opposeraient. Et ils ont fini par voter pour. Ils n'ont plus aucun logiciel sur les questions migratoires et sur les questions européennes. Nous avons toujours tenu une ligne très claire, c'est la fermeté sur les questions migratoires, mais c'est plus efficace quand on le fait au niveau européen, quand on met des moyens communs, quand on est capable de mettre la pression sur les pays de transit et de départ avec des instruments européens, qu'on y met des ressources. Et c'est comme ça que nous obtenons des résultats concrets. Encore une fois, une baisse de moitié des entrées irrégulières dans l'Union européenne ces deux dernières années. Et là, on renforce encore plus les dispositifs avec ce règlement retour.
Benjamin Haddad, une question sur Xenia Fedorova, l'ancienne patronne de Russia Today, la chaîne d'information russe. Elle est aujourd'hui chroniqueuse dans certains médias et elle reprend, je cite, « les narratifs de la propagande russe ». Voilà ce qu'affirme le Quai d'Orsay, le ministère des Affaires étrangères. Peut-elle rester sur le sol français ? Visiblement, son visa a été renouvelé. Est-ce que ce n'est pas paradoxal d'avoir d'un côté cette affirmation, elle reprend le narratif de la propagande russe, et de l'autre, de lui autoriser le séjour sur le sol français ?
Alors, moi, je voudrais distinguer les deux points. Je pense que c'est une chose de dire que quelqu'un peut venir s'exprimer et donner un point de vue sur les plateaux, mais après, on a le droit aussi d'être extrêmement lucide et clair sur ce que cette personne dit et le combattre. Et j'entends cette dame s'exprimer et effectivement reprendre tous les éléments de la propagande russe anti-européenne sur notre territoire, que ce soit sur la faiblesse de l'Europe, sur le fait que les Ukrainiens devraient accepter la défaite. Moi, je vois la réalité aujourd'hui du terrain, qui est que la Russie aujourd'hui recule sur le terrain.
Mais est-ce que ça veut dire qu'à vos yeux, cette femme est une ennemie? Est-ce qu'à vos yeux, cette femme est une ennemie de la patrie française?
C'est
ou de
l'Europe? Adversaire idéologique de ce que nous défendons, de ce que nous représentons, à la fois la France, l'Europe, qui vise à effectivement instiller une propagande qui en plus est fausse, qui est erronée, qui va contre ce que nous défendons. Et donc il faut être, je crois, encore une fois lucide pour le dénoncer et pour le combattre, et puis pour rappeler de façon extrêmement claire les faits. Les faits, c'est que les Ukrainiens défendent leur souveraineté, défendent leur liberté face à l'agression de la Russie depuis 4 ans, qu'aujourd'hui, grâce à énormément d'innovations d'ailleurs aussi sur le terrain militaire, ils sont en train de reprendre du terrain, que la Russie non seulement a agressé l'Ukraine, mais menace aussi l'architecture de sécurité européenne. Un drone russe qui est tombé en Roumanie encore cette nuit, menace par ses ingérences, par ses attaques cyber. Et donc face à
la Roumanie touchée, ça vous inquiète ?
Mais on le voit déjà depuis des mois. Déjà, je voudrais exprimer ma solidarité avec la Roumanie. Je rappelle d'ailleurs que nous avons des troupes françaises qui sont en Roumanie dans le cadre des opérations de réassurance de l'OTAN, précisément pour assurer notre soutien à la souveraineté de nos partenaires en Europe centrale et orientale.
C'est un drone russe ?
Et c'est un drone russe. Nous l'avons vu aussi dans les États baltes, en Pologne, ces derniers mois. Et donc, il faut être extrêmement lucide sur ces opérations d'ingérence, ces attaques cyber, ces incursions dans l'espace aérien de la part de la Russie, la menace que la Russie représente dans toutes nos démocraties.
Merci Benjamin Haddad, ministre délégué chargé de l'Europe, d'avoir répondu à mes questions. Arthur Chevalier est rentré dans ce studio. Bonjour Arthur.
Bonjour Apolline.
Est-ce que pour diriger un pays, on doit être en bonne santé ?
Est-ce que vous saviez, Apolline, que Napoléon a été malade toute sa vie ? Non, vous ne le savez pas. Eh bien, c'est simple, parce qu'il l'a dissimulé à tout le monde toute sa vie.
Vous nous le dites dans un instant. Et il y a aussi Arnaud Demange qui arrive. Ne bougez pas, il est 7h22.
RMC, Apolline Matin.
7h23 sur RMC et RMC Story, mais c'est l'heure de remonter le temps avec Arthur Chevalier. Bonjour Arthur.
Bonjour Apolline.
Joe Biden qui arrive à peine à parler face à Donald Trump. C'était un moment marquant de la campagne présidentielle il y a 2 ans. Jill Biden, la femme de l'ancien président, vient pour la première fois de revenir vraiment sur ce débat calamiteux.
Au moment où je regardais ça, j'ai pensé, oh mon Dieu, il fait un AVC. Voilà ce que dit Jill Biden aujourd'hui sur l'attitude de son mari pendant le débat. Ce jour-là, l'Amérique a découvert l'état de santé catastrophique de Joe Biden, un état que son entourage dissimulait depuis des mois, voire des années, au monde entier.
En même temps, quand on est chef d'État, on ne peut pas montrer ses faiblesses.
Alors vous avez raison, et c'est une façon de penser très contemporaine, hein, puisque sous l'Ancien Régime, pendant très longtemps, la règle, c'est que Dieu décidait de tout. Donc si Dieu avait décidé que le roi était malade ou affaibli, eh bien, vous n'aviez pas le choix, il fallait subir. De toute façon, les rois vivaient en public, au milieu de leurs courtisans, donc c'était impossible de cacher quelques faiblesses que ce soit.
À partir de quand est-ce que nos chefs d'État ont voulu donc dissimuler leurs faiblesses ?
Eh ben en gros, ça commence après la Révolution française, et à partir de là, eh bien on savait que le pouvoir, eh bien on pouvait le perdre, donc forcément, il fallait avoir l'air toujours fort. Et Napoléon est notre premier chef d'État à avoir fait semblant d'aller toujours bien. Et pourtant, il a été malade toute sa vie. Hein. Il faisait des crises d'épilepsie assez régulières. Il avait un problème à la vessie qui l'empêchait d'uriner. Il avait aussi des crises gastriques en permanence, y compris sur le champ de bataille. Et c'est à cette époque qu'on instaure le fameux bulletin de santé du chef de l'État pour informer les Français. Et d'après ce bulletin, Napoléon était toujours en pleine forme, ce qui évidemment était complètement faux.
Donc pour informer les Français, façon de voilà. Parler. Nos présidents auront eux aussi du mal à admettre parfois qu'ils sont malades.
Ah oui, évidemment. Et le cas le plus célèbre, c'est François Mitterrand. Pendant ses 14 ans de présidence, il avait un cancer dont personne ne parlait. Il faut attendre un an avant la fin de son mandat. pour que lui-même l'évoque en public. Nous sommes en 1994. Le président Mitterrand donne une interview avec le journaliste Jean-Pierre Elkabbach. On voit un Mitterrand amaigri, hein, les joues creusées, le teint cireux. Mais pendant l'entretien, Mitterrand minimise son état. Il se tient droit, il fait comme si tout allait bien. Une comédie, évidemment. Plus tard, Jean-Pierre Elkabbach racontera les coulisses de ce moment d'anthologie. Eh bien, une heure avant l'interview, Mitterrand n'était même pas capable de marcher. Il fallait le porter d'une chaise à l'autre. Bref, vous l'avez compris, Apolline, exercer le pouvoir, c'est être fort, ou au moins avoir, faire semblant de l'être.
Avoir l'air de l'être, faire semblant de l'être. Merci Arthur Chevalier. Passionnant ce rapport à la force ou à la faiblesse. Il est 7h26, Arnaud Demange nous rejoint.
RMC.
Demange Pirate, le face-à-face.
Salut Arnaud. Bonjour. Mon invité à 8h30, c'est l'animateur Arthur. Son dernier livre, Même la nuit ne veut pas de moi, c'est aux éditions Grasset.
Oui, un livre où Arthur raconte son vécu du 7 octobre, de l'antisémitisme, de la guerre au Proche-Orient. C'est un livre évidemment plus engagé que le dernier livre que j'ai lu de lui, c'était Les Tamères. Vous vous souvenez, Les Tamères? Ta mère, elle est tellement grosse que quand elle met des talons, elle trouve du pétrole. C'était ça. Et d'ailleurs, ça marche toujours. Ça marche toujours. Ta mère, elle a le visage tellement gras avec ses points noirs, on dirait du Munster au cumin, enfin ce genre de truc. D'ailleurs, je n'ai pas souvenir que vous l'ayez reçu dans le face-à-face à l'époque, Apolline.
Au moment de ta mère, non?
Oui,
non,
alors vous allez me dire... J'avais 13 ans, je trouve que l'excuse est bien pratique. Enfin, le changement de ligne artistique, il est quand même costaud, quoi. C'est comme si Patrick Sébastien se mettait à slammer des textes d'Hugo Clément. Il y a une nécessité de lutter contre le réchauffement. Chacun de nous est impacté. Il faut consommer autrement. Et on se dit, mais quand est-ce qu'on les fait tourner, les serviettes? Alors tiens, une devinette amusante. Est-ce que vous savez qui était le premier patron d'Arthur? Non. Quand il bossait à la radio locale, Radio Nord Essonne.
Non.
Eh bien, c'était Jean-Luc Mélenchon.
Mais non. Oui,
c'est absolument authentique. Alors, les liens se sont un peu distendus entre les deux depuis. Mais voilà, Mélenchon, ça a été le début de la fortune pour Arthur. Parce que quand ton premier patron, c'est Mélenchon, ça te motive pour monter ta boîte tout seul. Hein. Arthur vient donc nous livrer un témoignage sur l'antisémitisme qui est encore court aujourd'hui en France et tenez, pas plus tard qu'hier, je regardais Roland Garros. Est-ce que vous avez vu Adolfo Valero s'est acharné contre Moïse Kwame pendant 5 heures.
Voilà.
Un Adolphe qui veut éliminer un Moïse. Moi, je pensais qu'il était derrière nous. Eh ben non, c'est l'antisémitisme. Heureusement, Moïse a gagné. Comme quoi, l'antisémitisme ne passera pas. Allez, rendez-vous avec Arthur à 8h30.
C'est magnifique. Arnaud Demange, on se retrouve dans un instant pour la météo journal. 7h28.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Clara Gabillet. Bonjour Clara.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Juger des narcotrafiquants au sein même d'une prison, c'est une première en France. Une salle de procès va être construite à Fleury-Mérogis. Des noyades qui se multiplient avec la chaleur. Un adolescent mort hier en région parisienne. Chaleur qui a battu un record pour le mois de mai. Plus de 37 degrés à Angoulême. Et puis après les Champs-Élysées l'an dernier, les joueurs du PSG auront droit à la Tour Eiffel. S'ils remportent la Ligue des Champions demain soir, les éventuelles célébrations se précisent.
C'est une décision inédite en France. Il y aura bientôt des procès qui vont se tenir dans l'enceinte des prisons.
Dans celle de Fleury-Mérogis en Essonne, le ministre de la Justice Gérald Darmanin l'a annoncé hier. Une salle de tribunal va être construite pour pouvoir juger les narcotrafiquants les plus dangereux sans avoir à les transférer et ainsi éviter une possibilité d'évasion comme celle sanglante de Mohamed Amra en 2024. Cette grande salle sera opérationnelle fin 2027 mais fait déjà beaucoup réagir Constance Bostoen.
Les syndicats pénitentiaires évoquent une victoire, un remède aux risques encourus par les agents lors des extractions des détenus les plus dangereux, comme l'explique Johan Carrard, secrétaire général adjoint FO Justice.
Depuis plusieurs années, notamment avec le drame d'Incarville, il faut éviter le plus possible de sortir les détenus des établissements pénitentiaires. Et les établissements pénitentiaires sont des lieux de justice.
Du point de vue des magistrats et des avocats, si on comprend cette dimension sécuritaire importante, la mesure porte atteinte à de nombreux droits fondamentaux, comme l'explique maître Christine Darigo, avocate pénaliste habituée des affaires de criminalité organisée.
Vous créez un peu un stress inconscient chez les jurés, les juges, même professionnels, qui vont se dire déjà que les gens qu'ils ont à juger sont si dangereux qu'on ne peut même pas les transférer de leur prison. Pour moi, c'est une atteinte à la présomption d'innocence.
Selon elle, la justice ne doit pas être rendue dans une prison.
Vous allez faire rentrer le public en prison, vous allez faire rentrer la famille des victimes dans une enceinte sécurisée et vous allez, pendant des semaines et des semaines, obliger les victimes à se loger à Fleury-Mérogis. On va leur payer l'hôtel à Fleury-Mérogis.
L'avocate ajoute qu'il faudrait plutôt un lieu plus neutre, neutre, d'autant que le choix de Fleury Mérogis n'est pas anodin, la prison étant la plus grande d'Europe.
La vigilance orange canicule toujours en vigueur dans 11 départements de l'Ouest et à Paris ce matin. Elle a été levée dans le Morbihan, l'Ille-et-Vilaine et la Mayenne au lendemain d'une nouvelle journée suffocante. Hier, on a battu un record de température pour le mois de mai, 37,8 degrés relevés en Charente à Angoulême. Et les noyades s'enchaînent en région parisienne. Hier, un adolescent de 16 ans est mort dans le Val d'Oise alors qu'il se baignait dans l'Oise où c'est interdit. Inès Zegloul, ça s'est passé pendant une sortie scolaire.
Ils étaient sortis prendre l'air sur les berges du fleuve. Parmi la quinzaine d'adolescents encadrés par un enseignant d'un établissement des environs, certains se seraient mis à l'eau. Une eau trouble, difficile d'en apercevoir le fond des panneaux de baignade interdite, pourtant visible aux alentours. La victime, un jeune homme âgé de 16 ans qui, selon nos informations, avait déjà du mal à nager. L'adolescent aurait perdu pied lors de sa baignade, tentant de s'agripper à un camarade avant de disparaître être sous la surface de l'eau. L'alerte est donnée rapidement. Le corps de l'adolescent est finalement retrouvé à plusieurs mètres de profondeur par les sauveteurs aquatiques en arrêt cardio-respiratoire. Les longues tentatives de réanimation ne suffisent pas. La mairie a ouvert une salle pour accueillir les élèves présents sur place en état de choc.
Inès Zegloul. La Roumanie, pays membre de l'OTAN, dénonce ce matin une grave et irresponsable escalade après qu'un drone russe est tombé sur un immeuble résidentiel près de la frontière ukrainienne. Il y a 2 blessés. Il est 7h34. Le groupe Michelin se serre la ceinture. Il annonce un plan de départ volontaire en France. Jusqu'à 1500 postes supprimés sur 3 ans. Les 2 tiers dans le tertiaire, à Clermont-Ferrand, à Paris ou à Lille. Le reste dans les usines. Lucas Laubert, plan de départ volontaire annoncé car le leader du pneu veut réduire ses coûts.
Le groupe justifie cette décision par le niveau élevé des coûts de production en France, lié notamment au coût du travail et de l'énergie. La pression fiscale également est parmi les plus fortes des pays industrialisés selon Michelin. En parallèle, les pneus asiatiques et notamment chinois, bien moins chers, grappillent année après année des parts de marché. Il y a un an, le patron du groupe, Florent Ménégo, avait déclaré que les activités industrielles en France étaient déficitaires. Pour Romain Bastiac, délégué syndical central CGT chez Michelin, c'est une étape de plus vers la disparition du groupe en France.
On a connu un PSE il y a 2 ans sur Vannes et Cholet de 1254 suppressions. Et quelques années avant, on a vu La Roche-sur-Yon avec 700 suppressions. Ça fait avoir des inquiétudes sur l'avenir. Est-ce qu'il va rester des salariés Michelin en France? Donc on a déjà connu plein de suppressions et l'avenir peut faire très très peur, bien sûr.
De son côté, Michelin assure ne pas abandonner la France et vouloir réduire ses coûts pour faire face à la concurrence. Au cours des 10 dernières années, près de 3,5 milliards d'euros ont été investis dans le pays, assure le groupe.
Et on en débat sur RMC ce matin dans 10 minutes, le débat du vendredi. Charles Consigny, Cécile Duflot, ils débattront de cette question. Est-ce que le coût du travail est en train de tuer l'industrie en France? Mais je vous pose aussi la question à vous. Venez nous dire comment ça se passe chez vous. Vous êtes peut-être salarié ou patron dans le domaine de l'industrie. Appelez-nous pour nous dire si vous vous en sortez et comment ça fonctionne. Le 32-16, bien sûr.
C'est demain soir, encore quelques heures à attendre avant la finale de la Ligue des Champions entre le PSG et Arsenal. Et ces supporters parisiens que vous entendez n'ont pas pu attendre. Un cortège de scooters et de nombreux klaxons hier soir entre l'Arc de Triomphe et la Tour Eiffel, peut-être annonciateur d'une 2e étoile, Pierre Thévenet, car c'est là que le trophée sera célébré en cas de victoire.
Oui, et cette année, les célébrations de ce potentiel titre se dérouleront sur le Champ de Mars, au pied de la Tour Eiffel. À leur descente du bus, les joueurs parisiens rejoindraient alors une estrade, tout au long de laquelle ils pourraient communier avec la foule, à l'image de ce qui avait été fait pour la célébration des athlètes tricolores après les Jeux Olympiques de Paris 2024. Ils finiraient leur défilé sur un podium situé au milieu du rond-point central du Champ de Mars. De là, ils soulèveraient le trophée au pied de la Tour Eiffel, une image marquante que souhaite voir le Paris Saint-Germain. Comme pour la parade sur les Champs-Élysées l'an dernier, des blocs seront définis pour limiter le nombre de spectateurs. Une 100 000 environ seront présents pour fêter le retour des héros en cas de victoire à Budapest demain soir.
Et il y aura 8000 policiers déployés dans la capitale demain soir. La finale donc à 18h, Paris Saint-Germain-Arsenal. Ce sera évidemment à vivre sur RMC. À Roland-Garros, qui pour prétendre au titre, maintenant que Yannick Sinner est éliminé, le numéro 1 mondial battu hier au 2e tour, l'Italien affaibli physiquement. La chaleur n'aura pas eu raison par contre de Moïse Kouamé. La pépite du tennis français rejoint le 3e tour à seulement 17 ans. Victoire en 5-7 contre le Paraguayen Valero au bout de 5 heures de match.
Et puis le Quintet Vincennes, ce soir. Le départ, c'est 20h15.
La Dream Team des courses RMC vous conseille de jouer son favori, le numéro 8, Iroise de Matt Kerr. L'outsider, c'est le numéro 4, Icar Dungy, le 8 et le 4.
C'était le journal de Clara Gabillet. Et pour gagner, bon, il y a le quintet, mais il y a aussi notre jeu sur RMC. C'est le dernier jour et la dernière alerte pour vous inscrire à notre jeu et tenter de remporter jusqu'à 10 000 euros. Il y a 10 000 euros qui sont cachés. Ou alors le pack Coupe du Monde, un vidéoprojecteur, un maillot des Bleus, un ballon officiel et une boîte Lego du trophée. Vous venez sélectionner un des joueurs de la liste des 26 et vous repartirez avec un de ces cadeaux. Envoyez dès maintenant liste au 7-32-16. Liste au 7-32-16. Vous avez 5 minutes pour vous inscrire. Bonne chance à tous.
75 centimes par SMS, 3 SMS maxi. RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Stéphane, finale demain à Budapest. Et avant d'y aller, vous êtes passé par le studio d'RMC, Fabien Oteniente. Bonjour.
Bonjour.
Fan, parmi les fans du PSG et puis réalisateur, évidemment, Camping, Jet Set, 3-0, tout ça, c'est vous. Grand, grand supporter du PSG. Vous serez au match. Vous allez nous dire et partager avec nous l'état d'esprit. À tout de suite.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Paris, en finale de la Ligue des Champions. C'est demain que les Parisiens affronteront à 18h les Anglais d'Arsenal à Budapest. Bonjour Fabien Ontoniente, quel bonheur de vous accueillir ce matin. Vous êtes évidemment réalisateur, on a tous vu au moins un de vos films, si ce n'est tous, Camping, Jet Set, 3-0. Mais vous êtes aussi un très très grand fan du PSG. Vous serez au match demain à Budapest, comment vous vous sentez?
Je vais vous dire un peu serein.
Ah bon?
Ouais, quelque part.
Ouais, c'est bien.
Je sais pas, je trouve que les clubs anglais ont toujours bien réussi au Paris Saint-Germain depuis 2 ans. Et puis le club s'est vraiment bien restructuré après 2023. Il y a une colonne vertébrale incroyable entre le président, le directeur sportif Luis Campos et son entraîneur.
Tout le monde est aligné.
Ça provoque quelque chose de rassurant. Alors bon, ça ne veut pas dire que le match est gagné.
Non, mais c'est beau cette sérénité. C'est-à-dire, c'est beau de se dire à un moment, voilà, les choses, on est prêt. C'est ça ce que vous dites ce matin. On est prêt.
On est prêt. Et je sens qu'il y a de la compétitivité. Il y a de l'envie, mais je trouve que le Paris Saint-Germain est bien encadré.
Vous n'êtes pas superstitieux, hein?
Je le suis, mais pas là.
Ça dépasse.
Ça dépasse.
Ça dépasse tout ça. Paris qui avait donc triomphé l'an dernier, mais il faut quand même regarder de l'autre côté. Arsenal n'a jamais gagné la compétition. Ils sont motivés comme jamais. On parle d'eux comme du mur. Ça vous inquiète pas?
De toute façon, sur un match, tout est difficile. Hein. Ça va se jouer à des petits détails. C'est ça la haute compétition.
Aujourd'hui, c'est ça votre bonheur. Aujourd'hui, le PSG vous procure du bonheur, de la fierté.
Ah, complètement. Moi, vous savez, moi, je suis supporter du Paris Saint-Germain depuis que je suis gamin, c'est-à-dire 73. Et puis un jour, j'ai attrapé, comme dirait Richard Cochante, un coup de soleil, un coup de je t'aime. Et depuis, je suis en rouge et bleu. On a vécu des périodes difficiles. Mais là, on est quand même au top.
Elles sont d'autant plus savoureuses ces dernières années de sérénité, de solidité, de fierté.
Bah oui, parce que comme ça, on a eu des amours contrariés, c'était tumultueux, mais c'est ça qui est beau. Et je trouve que vraiment, on est récompensé. Puis ça, en fait, il y a un projet de jeu. Ça joue au foot, ça attaque, ça défend. C'est du football total.
C'est du vrai football total avec une équipe totalement investie. Côté gradin, quelle ambiance à Budapest? À quoi vous vous attendez? Il y a plusieurs milliers de supporters parisiens qui seront dans le stade.
C'est de la fête, c'est de la joie. On va croiser des copains. Tout le monde ne va vibrer qu'en rouge et bleu, et dans une France qui est toujours un peu clivante, c'est bien aussi ces événements qui rassemblent, qui font qu'on parle d'autre chose. Voilà.
Vous avez l'impression qu'aujourd'hui c'est un des espaces où on peut justement parler d'autre chose. Les derniers matchs du PSG, ils ont quand même été entachés par l'après, par les moments où sur les Champs-Élysées, dans ces quartiers-là, il y avait parfois des descentes, des affrontements avec les forces de l'ordre. Ouais. Ça, pour vous, c'est pas lié au PSG?
C'est pas forcément lié au PSG, non. Mais puis il faut penser France. C'est-à-dire que à une époque, il y avait
Pour une fois, pas un petit village irréductible marseillais, peut-être? Le à reste va vibrer.
À part ce petit village, effectivement. Mais j'ai jamais vu autant de maillots. Par exemple, même sur la côte basque, maintenant tout le monde a le maillot du Paris Saint-Germain. Ça a dépassé.
Une fierté nationale,
voilà,
désormais.
Voilà.
Pour vous, c'est une fierté nationale.
Gamins, maintenant, je les vois partout. Ils ont le maillot du Paris Saint-Germain. Donc, c'est plus. Il y a plus de clan maintenant. C'est plus large que ça.
C'est ça
qui fait du bien. Moi, de toute façon, j'aime la France quand elle se rassemble pour le Tour de France, pour les Jeux Olympiques, pour les grandes compétitions, peut-être pour la Coupe du Monde bientôt. Donc, c'est ça que j'aime. J'aime cette atmosphère un peu de joie collective. J'espère qu'elle ne sera pas trop entachée par des événements négatifs, mais j'aime cette atmosphère, j'aime ça.
Et pour vous, le PSG réussit à fédérer désormais. Vous êtes nombreux à nous écrire vos messages.
Et on a d'abord reçu une photo de François qui est à fond puisqu'il a pris son avion. Ce matin, il nous envoie une petite photo de l'embarquement. Départ 6h55 pour Budapest. Donc lui, il y sera à la finale. On a aussi Philippe qui est là pour un petit peu nous remettre les pieds sur terre. Juste à titre de renseignement, écrit-il, Paris n'a pas encore joué le match. Paris n'a pas encore gagné le match. Surtout, un petit peu de pragmatisme. Et puis on avait Aurélien ce matin au 32-16 qui nous disait que lui, il est passé au bar du coin en bas de chez lui et il a réservé son siège. C'est vrai qu'il y aura du monde.
Parce qu'il faut réserver aussi au bar, exactement. Très très bon match à vous, Fabien Antoniente, réalisateur, fan du PSG. Vous venez de publier, parce que vous n'êtes pas que réalisateur, vous êtes aussi écrivain désormais. Vous venez de publier Alors, on n'attend pas Fabien. C'est aux éditions Stock et ça retrace votre vie très riche de cinéaste. Merci d'être passé par RMC
Merci.
Ce matin.
Merci, bon match.
Bon match, il est 7h46 et dans un instant, il y a un autre match qui s'installe dans ce studio. Et ce match, c'est le match droite-gauche du vendredi. Cécile Duflo, Charles Consigny, bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Michelin annonce réduire de quasiment 10% ses emplois en France, 1500 emplois qui sont menacés. Les syndicats alertent, eux, sur un pays de bas salaires. Qui a raison? Est-ce que c'est un problème de coût du travail ou est-ce que c'est un problème de bas salaires? On débat du travail dans un instant. Cécile Duflo, Charles Consigny et vous, à tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Dans un instant, le débat droite-gauche, mais d'abord le bonus Victor, J-1, donc avant la finale de la Ligue des Champions, on connaît le programme des festivités au Parc des Princes.
Et oui, où sera retransmis la rencontre, vous le savez, et où il y aura des concerts avant le coup d'envoi, c'est ce qu'a dévoilé le Paris Saint-Germain. Mouiller le maillot, ça c'est ce que dit le rappeur NASA qui figure parmi la programmation. Beaucoup d'artistes qui sont issus de la nouvelle génération rap, mais on n'oublie pas l'ancienne, tiens, avec Rimka.
Je voulais rester à la cité, mon père m'a dit. Dans ce cas-là, je ramène tous mes amis. Alors dans une semaine, je rentre.
Ça c'est pour l'ancienne génération rap. Il y aura aussi un tout autre style à l'affiche. Est-ce que vous vous souvenez de Superbus?
J'avais un peu oublié, j'avoue. Mais là, je m'en souviens.
On s'y remet. Forcément, il en faut pour tous les goûts. Tiens, notez aussi que Rof, iconique rappeur, mais surtout supporter du Paris Saint-Germain, doit sortir un morceau ce soir, 18h, sobrement intitulé « Deuxième étoile » à 24h de la finale. Attention quand même au mauvais œil.
RMC, Apolline Matin,
le débat.
Le débat RMC, chaque vendredi, la droite, la gauche. Charles Consigny, bonjour.
Bonjour.
Cécile Duflo, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes là tous les deux et on va débattre de la question du travail en France. L'entreprise Michelin a annoncé hier la suppression de 1500 emplois en France. Il dit subir frontalement la concurrence asiatique et notamment chinoise. Et la direction de Michelin estime que le principal responsable, c'est le coût du travail en France, qui serait trop élevé. Est-ce qu'on est face à un symbole de l'industrie française et un symbole des blocages français? Charles?
En plus, oui, mais ça n'est pas d'aujourd'hui. Ça fait combien de temps qu'on déplore les délocalisations, la difficulté à garder une industrie en France? Le coût du travail ne fait pas tout, puisqu'on ne paiera pas nos ouvriers, en tout cas on ne peut pas le souhaiter, le même prix que les ouvriers chinois. Donc on ne va pas s'aligner, il n'est pas question de s'aligner sur le modèle chinois. En revanche, il est question d'ouvrir les yeux sur une situation qui me paraît évidente en France aujourd'hui, c'est que les prélèvements obligatoires sont beaucoup trop élevés. En gros, un employeur, pour payer quelqu'un 2000 euros, il faut qu'il sorte au minimum 3500 euros. Donc ça n'est pas tenable. Et c'est pareil pour tout le reste de la société. Moi, je pense qu'on atteint un niveau de fiscalité aujourd'hui en France qui confine au vol. Je pense que l'État vole les Français et que ça plombe tout notre pays.
L'État vole les Français, est-ce qu'il y a un problème de coût du travail, Cécile? Eh bien, d'abord, si on regarde Michelin, c'est un premier sujet. Ensuite, il y a le travail en général. Les syndicats se sont exprimés.
On va y venir.
Michelin, là où c'est intéressant, c'est que c'est un choix stratégique, en fait. Et je trouve que c'est un peu malhonnête de la part de son dirigeant de mettre la responsabilité sur le dos de la situation en France pour une raison très simple. Michelin a versé environ 8 milliards de dividendes ces 10 dernières années. C'est 4 ans de masse salariale globale. Il y a un choix d'investissement sur le haut de gamme, sur davantage de rentabilité pour les actionnaires. C'est un choix stratégique. Mais c'est pas le faire reposer sur des causes externes, je trouve que ça n'est pas juste. D'ailleurs, ça pose une question plus large, hein, la pression qui existe sur les entreprises pour distribuer massivement leurs bénéfices aux actionnaires avec des payout ratios, c'est-à-dire la part du dividende, du bénéfice distribué qui est de plus en plus importante et qui, du coup, fait qu'on est dans une logique là aussi.
Donc, le problème, Cécile, pour vous, c'est pas le coût du travail, c'est l'argent qu'on donne aux actionnaires?
Là, en l'occurrence, pour Michelin, c'est un choix stratégique et un choix de distribution de dividendes. Sur le coût du travail de manière plus générale, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'études. L'attractivité de la France, elle reste très élevée. Malgré un coût du travail, c'est vrai, plus élevé qu'ailleurs, mais pourquoi ? Parce que ce coût du travail, il implique en échange des services publics importants. C'est-à-dire que si vous ne payez pas la santé, mais que c'est l'entreprise qui doit le payer, dans ses arbitrages généraux, et d'ailleurs dans l'attractivité de la France, le fait qu'il y ait des services publics de qualité, qu'il y ait des infrastructures de qualité, tout ça est valorisé et tout ça, ça se finance.
Parce que c'est sûr que quand on va à l'hôpital en France, on est dans une infrastructure de qualité. Ça c'est.
J'ai dit qui paye.
C'est
pas votre employeur qui paye la santé.
Oui, mais les cotisations toutes mises bout à bout payent la santé, le chômage,
de mutualisation.
Les retraites. Bon, et donc la santé. C'est marrant comme on dégaine toujours la santé pour justifier ce système qui ne fonctionne pas. Si vous voulez, c'est évidemment qu'on on rêve tous d'avoir un hôpital merveilleux. Où tout le monde est soigné à égalité dans des conditions merveilleuses. En pratique, ça n'est pas du tout ça qui se passe, par ailleurs. En dépit de la pression qui existe sur les salaires, et pas que les salaires, puisque maintenant, même l'impôt sur le revenu finit par financer les retraites, parce que les cotisations ne suffisent plus. Donc bon, sur les histoires des dividendes, etc., on entend tout le temps ça. Sans doute, il y a des actionnaires qui font une connerie en s'attribuant trop une trop grosse part du gâteau de ce que rapporte l'entreprise. Et c'est bien sûr intellectuellement très désagréable de se dire que quelqu'un qui n'est qu'actionnaire, qui donc n'est pas au fourneau de l'entreprise, gagne quand même de l'argent sur l'entreprise. Il se trouve que quand vous êtes actionnaire d'une entreprise, ça veut dire d'une part que vous avez investi dedans, que donc vous permettez aussi à l'entreprise de fonctionner, et ça veut surtout dire que vous êtes propriétaire de l'entreprise. Donc s'ils font des choix que vous dites court-termistes, peut-être, mais c'est eux qui sont propriétaires de l'entreprise, et c'est eux qui sont juges de ce qui est bon ou pas pour l'avenir de l'entreprise.
Vous évoquiez, Cécile, à l'instant, ce que disaient aussi les syndicats. Les syndicats, ils ont écrit au Premier ministre hier pour s'inquiéter, je cite, d'une France des bas salaires. Ça, c'est vraiment, à vos yeux, le risque?
Oui, on voit bien qu'il y a... Et d'ailleurs, c'est aussi parce que il y a des exonérations sociales massives sur les plus bas salaires et notamment autour du SMIC qui font qu'on trappe les salariés dans ce niveau de rémunération. Mais la question, c'est vraiment celle de la distribution, de la création de richesse. Parce que j'entends ce que dit Charles sur les actionnaires possèdent l'entreprise. Certes, donc une grande partie d'entre eux n'ont rien fait pour, ils en ont simplement
hérité. C'est la question du capital et du travail, quoi.
Mais sans les gens qui travaillent, il n'y a aucune valeur. Sans les gens qui travaillent, il n'y a aucune valeur. Et quand on crée de la valeur, il doit y avoir davantage de justice dans ce partage de la valeur. Ce qui n'était pas le cas il y a 15-20 ans. On est dans une accélération d'une pression très forte exercée sur les salariés au détriment de la rentabilité du capital, donc avec une augmentation assez folle. On bat des records de distribution de dividendes et c'est spécifique à la France. La France est en tête de la distribution de dividendes et à l'inverse, elle est en queue de peloton sur la qualité de vie au travail. Donc ça ne tient pas. À un moment, ça crée de la tension et ça se ressent politiquement. Et je le redis, ce qui fait l'attractivité de la France aux investissements étrangers, c'est sa stabilité. Et donc si on met en... Et aussi la formation de sa main-d'œuvre, le savoir-faire, la recherche.
Et le réseau électrique. Et tout ça.
Bon, exactement.
On va pas refaire tout ça. Charles.
C'est intéressant quand même parce que c'est ça l'équilibre d'un
non,
système économique.
La question des salaires est une question énorme en France. Et d'ailleurs, on voit bien que si beaucoup d'entreprises sont obligées de se réfugier dans les salaires qui bénéficient de certaines exonérations de charges, donc des bas salaires, c'est bien parce que les charges sont trop élevées sur les autres salaires. C'est qu'en fait, il y a un problème. Et il n'y a pas que les salariés d'ailleurs en France. Il y a les indépendants, par exemple, tous les artisans, les indépendants, les auto-entrepreneurs, etc., qui donnent 50, 60, 70, 75% de l'argent qu'ils gagnent à l'État. C'est quand même ça aujourd'hui le système français sur lequel il faut qu'on ouvre les yeux. C'est un système dans lequel vous avez des gens qui donnent 75% de l'argent qu'ils gagnent à l'État. Donc il faudra bien voir qu'on ne pourra pas pleurer sur les bas salaires tant qu'on maintiendra la retraite à 62 ans, par exemple. Tant qu'on ne sera pas à la retraite à 67, si ce n'est 70 ans comme au Danemark, on ne pourra pas verser des salaires corrects aux gens. Tant qu'on sera l'hôpital de la planète entière, pardon de le dire, on ne pourra pas verser des salaires corrects aux gens. Tant qu'on ne fera pas de réforme sur les dépenses publiques, on ne pourra pas verser de salaires corrects aux gens. Et moi, je vois une autre manière aussi de bien payer les Français, c'est de remettre la question des salaires beaucoup plus quotidiennement dans le débat, et notamment d'actionner des leviers. Et là, pour le coup, je ne serais pas forcément opposé à des solutions un peu contraignantes, d'imposer ce que De Gaulle appelait la participation, c'est-à-dire l'actionnariat salarié. Mais oui, mais l'actionnariat salarié...
Et dans ces cas-là, les dividendes
regardez,
propres,
par exemple,
à ses propres salariés.
Je prends un dernier exemple. L'entreprise Total, qui s'est remarquablement comportée pendant la crise des carburants, qui est une entreprise magnifique. Vous avez énormément de ces salariés qui sont actionnaires de Total. Et ben croyez-moi que ça permet que ce soit mieux rémunéré.
Ça pourrait être la clé ?
Alors, la clé, c'est le partage de la valeur créée. C'est-à-dire, qui crée de la valeur dans ces entreprises ? C'est évidemment, pour une grande partie, les salariés. Et c'est normal qu'ils soient rétribués. Je pense que si on ne dit pas les choses de façon juste, les auto-entrepreneurs, ils ne payent pas 75% de charges.
60.
Ils payent... Ils payent, non,
60.
Ils payent de l'ordre de 30%. Et attendez,
non,
je termine, pendant la crise du Covid, quand ils n'ont plus du tout travaillé...
Non, mais ce n'est pas 30%.
Je termine. Oui, finalement, l'État a mis en place, et c'est un modèle de société. Est-ce qu'on veut un modèle de société plus solidaire ?
Moi, je pense qu'au-delà de 30%, c'est du vol.
Un modèle de société qui pressure les individus.
Et on est au-delà
sauf
de la solidarité,
les salariés,
là.
Et c'est pour ça que ce qui est intéressant dans ce que vous avez dit sur la lettre des syndicats, c'est que c'est tous les syndicats. Il y a quand même une grande diversité de nuances d'appréciation. Et là, il y a vraiment cette vision collective que là,
et ils ont écrit.
Ça dysfonctionne
ensemble au gouvernement. Merci à tous les deux.
Charles, on est dans le foutage de gueule.
Il est 7h57 et vous êtes bien sur RLC. Dans un instant, la météo et le journal. Et juste après la météo, où on vous le redira, il y a encore 11 départements qui sont en vigilance orange canicule. Justement, on parlera économie. Emmanuel, est-ce qu'on sait combien ça coûte la canicule ?
Oui, ça va nous coûter plusieurs dixièmes de points de croissance, plusieurs dixièmes de points de déficit public, un coût exorbitant.
Vous nous le dites dans un instant, il est 7h57.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. RMC, Apolline Matin.
Il est 8h et c'est l'heure du journal. Quentin Vinet, bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. C'est sport ce matin. C'est la grande transhumance qui commence pour les 17 000 supporters du PSG qui prennent la route de Budapest où Paris jouera demain, vous le savez, sa finale de Ligue des Champions. On vous donne les toutes dernières informations ce matin sur RMC. Vous allez voir que les compétitions sportives sont annulées ou modifiées ce week-end avec les fortes chaleurs et que le tournoi de Roland-Garros est plus ouvert que jamais au lendemain de l'élimination du grand favori Yannick Sinner.
C'est ce matin que le gros des troupes prend la route de Budapest.
Alors la route ou l'avion, comme ses supporters du PSG, parmi les premiers à décoller ce matin à l'aéroport de Beauvais, à la veille de la finale de Ligue des Champions.
C'est un sacré périple, parce que l'année dernière on était à Munich, mais on n'a malheureusement pas eu de place. Et là, cette année, on y retourne et on a tous des places. Et donc là, autant dire que l'excitation est à son paroxysme, qui nous coûte dans les 3000 euros. Donc voilà, ça fait quand même un sacré budget, hein. Il y a quelques SMIC qui partent, mais c'est ce qu'on disait, les souvenirs ils seront gravés à vie dans la mémoire, quoi.
À Budapest, prêt pour la finale, puis on va espérer gagner. Hein.
Il faudra bien démarrer le match, je pense, et ça sera à mon avis quand même serré au niveau du score. Voilà. Mais il y a quand même plus de talent en attaque côté parisien, donc voilà, on espère que nos étoiles vont briller devant pour nous faire gagner le match.
Alors ces étoiles, justement, eh bien, elles décolleront, elles aussi, les joueurs du PSG prendront l'avion vers 10h ce matin. Dembélé et Hakimi sont bien du voyage avant de s'entraîner cet après-midi dans le stade de Budapest où se jouera la finale que vous vivrez demain, vous le savez, sur RMC, toute la journée, hein, même vous n'allez rien manquer à l'écoute d'RMC de cette journée et de cette quête du doublé européen qui va mobiliser 22 000 policiers et gendarmes dans toute la France et 8 000 rien qu'à Paris et en banlieue, avec un message de fermeté qui est répété par le ministre de l'Intérieur Laurent Nunez dans un message envoyé cette nuit à tous les préfets pour que la soirée ne soit pas ternie par des violences comme c'était le cas l'année dernière, chacun s'en souvient. Et d'ailleurs, ce matin, Pierre Bazin du service police-justice à RMC, vous êtes avec un policier qui sera mobilisé pour cette finale.
Demain, Guillaume sera positionné au cœur de la capitale avec ses collègues. CRS, depuis plus de 20 ans, il sait quels sont les risques lors de cette soirée.
On sait faire, on a quand même l'habitude d'être engagé sur des événements d'une telle ampleur. Bon, on aura toujours les personnes qui viennent perturber l'événement, donc on aura les casseurs, les personnes qui veulent un affrontement avec les forces de l'ordre. Vu ce qu'on a pu voir sur les événements passés, on sera certainement confronté à ces situations. Il y a des groupuscules qui sont de plus en plus violents et de plus en plus organisés.
Et puis cette année, le match a lieu plus tôt, donc la troisième mi-temps sera certainement plus longue, ce qui risque de mettre les organismes des forces de l'ordre à rude épreuve.
Ça va être une journée où il va faire très chaud, parce que bon, la météo, elle prévoit plus de 30 degrés encore. Ça fait une semaine qu'on travaille avec ces chaleurs. On sait que ça va être une journée longue et assez difficile.
Et pour éviter les mêmes images que l'année dernière, les autorités ont décidé de déployer 2500 policiers et gendarmes supplémentaires.
Et d'autant qu'il y a d'autres gros événements comme le concert de Damso à Nanterre et d'Aya Nakamura au Stade de France. Alors on attend 27 degrés demain à Budapest au moment de la finale, nettement moins qu'en France où on va encore vivre une journée de forte chaleur à peu près comme hier avec plus de 36 degrés à Bordeaux, plus de 37 ont été recensés à Narbonne, Béziers, Perpignan, il faisait quasiment 38 degrés à Angoulême. Ce matin, il y a toujours 11 départements qui sont en vigilance orange pour cette chaleur. Il y aura encore beaucoup de monde donc à la plage ce week-end et d'ailleurs la surveillance sera renforcée sur la côte atlantique. Un hélicoptère de la sécurité civile prépositionné à Lacanau après une série de 4 noyades mortelles en Gironde. Et alors de nombreux organisateurs d'événements sportifs annulent ou revoient leurs plans. Je vous le disais là pour les compétitions qui sont prévues ce week-end pour ne pas revivre les mêmes drames que le week-end dernier avec énormément de malaise et même 2 décès durant des compétitions à Paris et Lyon. On en a parlé sur RMC et Antonin Audion, vous avez enquêté, vous avez passé des coups de fil pour RMC.
Angers, c'est sans aucun regret qu'Olivier Henault a annulé la course de 10 km prévue demain qu'il organisait depuis de longs mois.
Là, on était persuadé qu'on aurait pu aller à la catastrophe. Il était préférable de faire comme ça et de ne pas se retrouver avec des urgences remplies de personnes ou pire que ça, un décès. On n'est que sur du sport et c'est pas très grave. Ce dôme de chaleur, là, il dure une semaine. Vaut mieux annuler un événement que d'aller à la catastrophe.
Plus au sud, dans la Vienne, Arthur Gonnet organise un tournoi de foot pour enfants et lui aussi est inquiet à cause des 30 degrés annoncé demain.
On ne veut pas qu'il y ait de problème sur notre tournoi, donc que ce soit insolation ou des personnes qui fassent des malaises. Sachant qu'en plus, là, nous sommes sur un public jeune, donc c'est des enfants de 10 à 13 ans, donc on doit être deux fois plus vigilant.
Pour éviter tout problème sans annuler le tournoi, il faut trouver le moyen de s'adapter.
On a prévu de raccourcir les temps de jeu, passe de 25 minutes par match à 15 minutes de temps de jeu. On va mettre des points d'eau en place, des robinets, des bassines d'eau, pour permettre de se rafraîchir.
Les activités sportives en plein air sont déconseillées à partir de 32 degrés par le ministère des Sports.
Et alors, est-ce que ça va chauffer? Deux manifestations sont prévues ce matin et à la mi-journée sur le parvis de la Défense, près de Paris, avant le rendez-vous de l'année chez Total, qui réunit aujourd'hui ses actionnaires pour son assemblée générale annuelle sur fond de critiques environnementales et de bénéfices records avec la guerre au Moyen-Orient. Martin Lange, vous avez joint pour RMC des actionnaires qui en ont marre de toutes ces critiques.
Denis est actionnaire de Total Energy depuis une quinzaine d'années et il ne comprend pas les polémiques entourant les bénéfices du géant pétrolier.
On ne peut pas reprocher à Total de fournir ce que les gens demandent.
D'autant qu'en plafonnant les prix à la pompe, la major a démontré sa bonne foi, selon le retraité.
Je crois que c'est la seule compagnie en France qui fait ça. Elle n'est pas obligée de le faire.
Il sera donc présent cet après-midi à la Défense.
Total est un fleuron de l'économie française. On devrait être fiers de cette compagnie. Je n'ai jamais accepté ce Total bashing. Je trouve qu'il est injustifié. Si aujourd'hui Total devait disparaître, ce serait une catastrophe nationale.
Il pourrait croiser 4 associations de défense de l'environnement qui se sont donné rendez-vous sur le parvis de la Défense pour réclamer une plus grande taxation de Total Energy. Fanny Petitbon est responsable France de l'ONG 350.
Donc c'est le moment un peu de braquer les projecteurs sur ces gros pollueurs. C'est pas les taxer juste pour le plaisir. C'est les taxer parce qu'elles ont une responsabilité dans les différentes crises qu'on est en train de subir, que ce soit énergétique, climatique et du pouvoir d'achat.
Une taxe qui permettrait, selon ces associations, de financer des aides pour les plus impactés par la crise, ainsi que la transition énergétique.
Et sommes-nous à l'aube d'une nouvelle crise? D'ailleurs, ce matin, la Roumanie affirme avoir été touchée par un drone russe dans une ville à la frontière ukrainienne. Roumanie, pays de l'OTAN, qui condamne, je cite, l'inconséquence de la Russie. Réaction à l'instant de la présidente de la Commission européenne. Elle dit qu'une nouvelle limite est franchie. Et alors, on se demande ce matin qui est le nouveau favori à Roland-Garros. Le tournoi semble plus ouvert que jamais cette année, avec l'hécatombe chez les favoris. Il y a quand même 5 têtes de série qui sont tombées hier, et notamment l'Italien Yannick Sinner, le numéro 1 mondial à qui le tournoi semblait pourtant promis, mais qui a donc été éliminé dès le deuxième tour, Léna Marjac.
Blessure, chaleur ou autre, Yannick Sinner est resté assez flou dans ses explications. Ce qui est sûr, c'est que l'Italien a subi une énorme défaillance physique. Il menait 2-7-0, 5-1 dans la troisième manche, puis son corps a lâché, défaite en 5-7.
Au milieu du troisième set, j'ai commencé à prendre un vrai coup de massue et je n'ai pas réussi à m'en sortir. J'ai essayé de récupérer pendant le quatrième set que j'ai laissé filer pour bien repartir dans le cinquième. C'était vraiment bizarre parce que je n'avais pas d'énergie. Je ne pouvais pas faire plus, honnêtement.
Le numéro 1 mondial était jusque-là invaincu sur terre battue depuis le début de la saison. C'est un vrai séisme de le voir perdre prématurément.
Complètement inattendu, très surprise aussi.
Là, pour le voir jouer à ce niveau-là, à la fin, c'était un peu désolant. Ouais.
Tout le monde le voyait au moins aller jusqu'en finale. Et ça arrive, c'est la loi du sport.
Plus de Sinner à Roland-Garros, plus d'ultra favoris donc. Le tableau s'ouvre grandement. Qui peut aller s'imposer porte d'Auteuil? Florent Serra, consultant RMC Sport, a sa petite idée.
Peut-être l'année de Zverev aussi. Hein. Il attend depuis longtemps. Pour d'ici, il n'y arrive pas cette année. Quand est-ce qu'il va y arriver?
L'année d'Alexander Zverev. Bref, pourquoi pas. Mais n'oublions pas Novak Djokovic, 39 ans, en mission pour aller chercher un 25e Grand Chelem.
Il jouera tiens aujourd'hui pour le début du troisième tour avec un seul Français, Quentin Alice, face à l'Allemand Alexander Zverev. Il n'y a pas que le PSG en football, il y a aussi Nice et Saint-Etienne qui vont disputer ce soir à 20h45 le match retour de leur barrage pour une place en Ligue 1. On se souvient du triste nul 0-0, c'était mardi soir. Et c'est aussi le début du rassemblement des Bleus à Clairefontaine ce matin pour préparer la Coupe du Monde qui commence en quelque sorte aujourd'hui. Ils sont attendus dans la matinée, à l'exception évidemment des finalistes des Coupes d'Europe.
C'était le journal de Quentin Vinet, 8h09, on parle économie et canicule.
RMC, Apolline Matin.
Le chiffre d'affaires.
Oui, parce que ça nous coûte cher, hein, ça nous coûte cher au-delà de la difficulté pour la santé. Emmanuel Le Chip, bonjour Emmanuel.
Bonjour à tous.
Moins de croissance, plus d'inflation, plus de déficit public. La facture de ces vagues de chaleur en Europe s'annonce salée.
Et oui, les épisodes de forte chaleur, tenez-vous bien Apolline, ont été multipliés par 7 depuis les années 80 et le nombre moyen de décès par canicule a quintuplé. C'est de ce constat de départ que partent les experts d'Iron Street pour évaluer l'impact économique de toutes ces canicules, sachant qu'en Europe, ces épisodes frappent des pays à la démographie vieillissante, donc avec plus de gens fragiles, dans des logements plus anciens que sur les autres continents et équipés à 19% seulement de climatisation contre 90% aux États-Unis. Et donc, ces canicules coûtent cher en croissance, en pesant notamment sur la productivité des salariés. Il faut savoir que pour chaque degré au-delà de 30 degrés, eh bien, c'est 3% de productivité perdue. L'énergie coûte plus cher, l'agriculture souffre, l'inflation est plus élevée, les ménages et les entreprises dépensent moins. D'ici à 2030, la perte d'activité économique pourrait atteindre 240 milliards de dollars pour la France. Ça veut dire plusieurs dixièmes de points de croissance par an. Et la France serait le pays d'Europe le plus affecté, puisque le coût serait de moins de 150 milliards en Allemagne, en Italie ou en Espagne. Moins de croissance, plus d'inflation, des dépenses de santé et des réparations d'urgence plus élevées, les canicules détérioreront aussi les finances publiques avec des déficits creusés de l'équivalent de 0,5 point de PIB. Ça veut dire, c'est pareil, c'est une quinzaine de milliards d'euros chaque année de déficits publics qui y proviendront de ces canicules.
Mais Manu, ça c'est quand même c'est un scénario ultra pessimiste, ça c'est si on fait rien.
Non, pas du tout, parce que d'ici 2030, tout est joué. Déjà, en Europe, on privilégie plutôt les politiques d'indemnisation de ces canicules que les politiques d'adaptation à la chaleur. Et puis, toutes les politiques de rénovation urbaine à grande échelle, de transition énergétique, de mobilité propre, tout ça monte en puissance, mais on est encore dans la phase où ces politiques coûtent plus qu'elles ne rapportent sur le plan écologique comme sur le plan financier. Raison de plus pour ne pas traîner, parce que si vous imaginez ça d'ici à 2030, imaginez les coûts après 2030.
Emmanuel, comme tous les jours, les chiffres du jour, ça monte ou ça descend?
Je n'ai que des bonnes nouvelles aujourd'hui,
ça
à la
descend.
Veille du week-end. Le gazole, on casse la barre des 2,10. 2,09, ça y est, on est passé dessous. 6 centimes de baisse en une semaine. Le samplon 95, la détente s'amorce. Enfin, on est à 2,04 € le litre. C'est 2 centimes de moins qu'il y a une semaine. Alors le pétrole, évidemment, avec cette perspective d'accord de paix, on est à 91 $ le baril. On est au plus bas depuis. Vous savez, il y avait déjà eu un espoir précédent le 17 avril. Bah pareil, on était tombé à ce niveau-là. Et puis le gaz est à peu près stable à 45 € le mégawattheure. Mais vraiment que des bonnes nouvelles sur les prix des carburants.
Merci Emmanuel, 8h12.
Votre rendez-vous sur RMC avec Banque Populaire, engagée aux côtés de ceux qui entreprennent. Banque Populaire, la réussite est en vous.
8h12 sur RMC. Restez bien avec nous. Dans un instant, Arnaud Demanche revient pour nous faire rire. À 8h30, mon invité dans le face-à-face, ce sera l'animateur Arthur. On connaît évidemment ses rires, on connaît sa voix et on découvre aussi ses larmes et la souffrance des Juifs de France depuis le 7 octobre. Il nous le raconte dans un livre. Il sera donc mon invité à 8h30. Juste après la semaine, face à Canteloup, Nicolas Canteloup, c'est à 8h50. On se rejoint dans un instant. À tout de suite, 8h13.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
Arnaud de Manche est avec nous, 8h16 sur RMC. Bonjour Arnaud.
Oh oui, il a failli pas être là, Pauline. J'ai chaud.
Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez failli fondre?
Mais j'ai fondu. Bah, j'ai perdu 12 kilos de sueur. Je fonds, il fait chaud. Je crève de chaud, les amis. En avril, ne te découvre pas d'un fil. En mai, crève. C'est atroce. Vous avez vu que Patrick Balkany a été condamné à de la prison fermière pour détournement de fonds publics? À mon avis, il a tout avoué exprès hier. C'est son avocat qui lui a dit, si tu balances tout, tu te retrouves à l'ombre pour 3 ans. Il a dit, ok, pas de problème. Tu sais, à 77 ans, tu prends pas de risque. Hein. Nous, dans notre studio, on a Victor Pourchet, qui a une énorme moustache. Oui. Mais comment il fait pour pas crever avec ça? C'est littéralement un morceau de laine scotché sur le visage. On dirait un boudin de porte en mohair. Vous ne respirez que de l'air chaud avec ça sous le nez. Je serais mort à votre place. Toute mon admiration, mon ami.
Merci.
Hier, j'ai regardé un petit peu Roland Garros. Oui. Là aussi, comment font les gens pour rester 5 heures en plein cagnard? Pour voir quasiment que les Français perdre en plus. Il nous reste Moïse Kwame, mais pour combien de temps? On est quand même sympa, nous les Français. Chaque année, on organise un tournoi sportif pour voir gagner les autres pays. Voilà. Et on applaudit comme des cons. Voilà. C'est super. Bon, après, personne va à Roland-Garros pour le tennis. Non, Roland-Garros, c'est autre chose. C'est un endroit où tu payes 18 euros un Perrier rondelle. C'est un endroit où tu vas pour te faire prendre en photo, pour pouvoir dire « j'appartiens à la haute société et j'ai du goût ». Non, Martine, ton CE a eu des invitations et vous avez tous le même chapeau. C'est ça la réalité. Alors tiens, tant qu'on parle de sport, samedi, le PSG affronte Arsenal en finale de la Ligue des Champions. Et en cas de victoire, les bagarres traditionnelles sont prévues sur les Champs-Élysées, à ne pas louper. La mairie de Paris hésite encore entre organiser une fête ou directement déclarer l'état d'urgence. Vous savez qu'ils ont organisé une fausse exposition de photos de Yann Arthus-Bertrand juste pour canaliser les fans quelque part pour sauver des vitrines.
Il est là.
La tour Eiffel va clignoter en bleu et rouge à cause des reflets, des gyrophares, des ambulances et des gardes CRS. Et lundi matin, les habitants du 7e vont se réveiller. Charles Hubert, le PSG a gagné ou perdu? Attendez Chantal, je regarde par la fenêtre. Bon bah le Land Rover a cramé, ça veut dire qu'ils ont gagné, j'imagine. On a
gagné. Alors selon le porte-parole du ministère iranien de la Santé, le guide suprême Mojtaba Khamenei n'aurait subi que des blessures superficielles.
Oui, on l'a pas vu depuis 3 mois, il est infoutu de prendre la parole, mais il a des blessures superficielles. Ça doit être le même communicant qui a dû appeler Tchernobyl un léger problème de chauffage. Oui. Le Titanic avait un petit souci d'étanchéité. Voilà. Et le dernier quinquennat de Macron est une demi-réussite, finalement. Voilà. Ça sent le communiqué de chez Bullshit Crisis Communication, une division spécialiste de la communication de crise chez McKinsey. Ok Mike, on a une crisis en Iran. Alors déjà, briefing. Mike, de quoi souffre le guide suprême?
Oh bah tu sais Mike, il souffre pas beaucoup. Hein. Il est dans le coma, il est à moitié mort.
Ok Mike, on va dire qu'il a des blessures superficielles, des superficial blessures.
Yes. Oh oui, t'es un génie Mike.
Moi toi aussi Mike.
Non, surtout toi Mike.
Merci Mike, merci à tous les Mike. On peut facturer ça 9 millions et s'applaudir bien fort. Et maintenant, je propose qu'on fasse l'amour tous ensemble. Voilà, mettons-nous tout nus, juste, on garde les cravates, on reste corporate.
Non, pas de problème Mike. Je vais faire l'hélicoptère avec ma cravate.
Tant mieux. Le communiqué est tellement rassurant.
Pas très ambiance iranienne.
Le communiqué est tellement rassurant, on s'attend presque à ce qu'ils écrivent et son bras repoussera normalement dans 6 semaines. Et encore, il parle pas de sa tronche. Alors qu'il peut pas parler, il doit lui rester 5 dents et 11 cheveux. Le gars, c'est Michel Houellebecq. Mais vous allez voir que...
On le salue.
Mais vous allez voir, on l'a pas vu arriver, mais vous allez voir que le prochain communiqué, ça va être le guide suprême a été légèrement irrité au visage après un peeling et il va réapparaître avec un casque. Ça va être le Daft Punk du Moyen-Orient. I run the world. Ça va être horrible.
I run the world. Le dictionnaire Robert lance un assistant en intelligence artificielle. Dis-moi Robert.
Oui.
On peut lui poser toutes les questions sur la langue française.
Oui. Dis-moi Robert. Ça fait un peu pilier de comptoir à qui tu poses des questions quand t'es raide bourré. Tu sais, là, c'est sur la langue française. Et ben, ça sera... Dis-moi, Robert, est-ce que les vieilles sirènes dans l'océan, elles finissent seules avec des poissons-chats? On ne sait pas. Dis-moi, Robert, est-ce que les flamencouches le premier soir
Dis-moi, Robert, si on mange un pépito à minuit, est-ce que c'est un pépitard? J'ai passé énormément de temps dans les bistrots, j'en ai collecté des trucs. Ah non, mais c'est bossé. C'est bossé en temps de canicule, mais c'est bossé, quoi. Et le dictionnaire Larousse, lui aussi, va lancer un assistant en IA. Dis-moi, Larousseau.
Dis-moi, Larousseau.
C'était alambiqué et ça servait à rien. Je voulais juste un prétexte pour voir Apolline et Élise s'enjailler sur la chanson. Ah, je sais que Géraldine, c'est plus que heavy metal.
Ça a marché.
Et bon week-end.
Merci beaucoup, Arnaud, on vous retrouve tous les jours, évidemment, en direct, mais aussi en podcast et en tournée. Il va sur le terrain,
en Iran.
Non, pas en Iran, mais il va à Nice, à Lille, à Rennes, à Reims, à Montpellier, à Bordeaux, à Jonzac, à Toulon. Et c'est un spectacle RMC. Il est 8h21. Tiens, il y a Thierry qui nous appelle de Saint-Sauveur-d'Aunis en Charente-Maritime. Bonjour Thierry.
Oui, bonjour.
Comment ça va? Vous êtes couvreur. Vous avez chaud?
Oui, il fait chaud.
Vous êtes déjà au boulot là?
Je suis en panne de véhicule, mais j'étais parti pour aller au boulot.
En panne de véhicule? Sous la chaleur?
Oui, il a eu chaud, je crois bien.
Ah, il a eu chaud. Il a eu chaud aussi. Comment non, vous alors, allez faire là? Vous attendez quoi? Vous attendez qui?
J'attends qu'il refroidisse un peu. J'ai remis de l'eau, puis je vais aller jusqu'au dépôt, puis après mon patron avisera. Non, en fait, moi ce que je comprends pas, c'est que dans un pays où on veut tout réglementer, on ne réglemente pas le travail par température extrême. Je m'explique. Dans le bâtiment, les employeurs payent une cotisation obligatoire pour les intempéries. Les intempéries, ça inclut la chaleur, la pluie, tout ça. Il n'y a quasiment aucun employeur qui fait marcher cette intempérie. Alors, moi, on ne m'oblige pas à aller travailler, hein, on est d'accord. Hier, j'ai bossé, il faisait 42 degrés à l'ombre, et sur les tuiles, il faisait 65 degrés. Et là, si vous n'avez pas travaillé, bon, j'ai pas un employeur comme ça, mais certaines boîtes, quand vous n'avez pas travaillé pour ça, vous êtes mis de côté, puis à la première occasion, on vous vire. Donc, dans un pays où on réglemente tout, on n'a pas encore réglementé la température à laquelle on a...
Le droit ou pas le droit de travailler. Alors, je crois qu'il y a vraiment un seuil maxi, mais c'est rarissime. En effet, vous avez raison que ce soit vraiment utilisé. Merci beaucoup, Thierry. On espère que la voiture va redémarrer. Bon, on est ensemble.
Non plus.
On est là, de toute façon, hein, Thierry. Donc, vous pouvez continuer à écouter RMC en attendant que la voiture refroidisse. Merci beaucoup, Thierry, d'être passé par le 32-16. Dans un instant, mon invité, ce sera l'animateur Arthur. Il publie un nouveau livre. Il se confie sur l'antisémitisme, sur le boycott des artistes. On y revient dans un instant. Son regard sur notre époque. Arthur, c'est dans le face-à-face. C'est sur RMC et BFM TV. 8h23.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face.
Il est 8h28, vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Arthur.
Bonjour.
Arthur, Jacques et ses bagues, c'est sous ce nom-là que vous êtes désormais non seulement animateur mais aussi écrivain et vous publiez ce nouveau livre, Même la nuit ne veut pas de moi. On connaît votre voix, vous êtes animateur, vous êtes dans le salon des Français depuis toujours, j'allais dire. Et désormais, on connaît aussi vos états d'âme, on connaît aussi vos larmes, on connaît vos tristesses. Vous étiez l'homme qui rit et vous êtes un peu devenu l'homme qui pleure ou en tout cas qui ne dort plus. Comment ça va? Comment ça va vraiment?
C'est intense. On va dire que la période est intense parce que j'ai une vie qui est un roller coaster et depuis 2 ans, on va pas se mentir, c'est intense, très
depuis
intense.
Depuis 2 ans, depuis le 7 octobre.
Oui, parce que c'est une date qui m'a marqué, qui continue à me marquer et qui continue à marquer beaucoup de monde d'ailleurs.
Votre livre, il s'ouvre sur un cauchemar. J'ai plein de questions à vous poser sur notre époque, sur le regard que vous posez sur les clivages, les nouveaux clivages qui se sont installés, qui déchirent la société, c'est ce que vous dites. Votre livre, il s'ouvre sur un cauchemar. Vous, dans un tunnel, la mort, la sécheresse, vos impressions au réveil, c'est presque comme si la nuit, vous preniez vous-même en quelque sorte la place qui a été celle des otages, qui ont été retenus dans les tunnels du Hamas, comme si vous-même vous étiez otage. Vous vous réveillez, mais pas complètement.
En fait, ce qui se passe, c'est que j'ai monté des documentaires, notamment sur le massacre du Festival Nova, et j'y ai passé énormément de temps pendant 2 ans avec pratiquement toutes les familles d'otages. Et j'ai aussi rencontré les otages après leur libération. Et j'ai écouté leurs témoignages, j'en parle dans le livre, j'ai assisté à des séances de psy, des séances de...
Vous racontez une sorte de groupe,
oui,
de paroles,
oui,
où chacun raconte ceux qui ont vécu au plus près la souffrance.
Exactement.
Il y a cet homme qui raconte avoir tenu les derniers instants de vie, la main d'un enfant, une main encore tiède qui ensuite, soudain,
a lâché, d'un enfant qui avait été massacré dans les kibbutz. Vous racontez ces moments-là. Quand vous l'écrivez, quand vous écrivez deux livres en moins d'un an, est-ce que c'est parce qu'au fond vous vous dites « mais je comprends pas qu'on nous comprenne pas » ?
En fait, j'ai l'impression qu'on parle dans le vide. J'ai l'impression que les gens n'ont pas conscience de ce qui se passe en ce moment, de la bascule qui s'est produite après le 7 octobre, de la montée folle de l'antisémitisme. Alors ce sont des livres, mais c'est aussi un journal en fait. Et donc j'ai écrit
avec des morceaux de vie, des exactement. Morceaux de moments.
Et le premier s'est arrêté. Exactement, le premier s'est arrêté le 1er octobre. Et j'ai été frustré de ne pas parler de la libération des otages pour lesquels je m'étais battu. Donc c'est pour ça que j'ai lancé ce deuxième livre. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression que et le monde avance et c'est tant mieux. Mais il se passe des choses folles.
Mais quand vous dites, j'ai voulu raconter aussi dans ce deuxième livre la libération des otages. On a quand même un peu l'impression, parce que vous la racontez, la libération des otages, comme d'un moment évidemment de joie, mais d'espoir aussi. Et puis ensuite, finalement, le livre continue en se disant, mais en fait,
ça n'a rien changé.
Les gens n'ont pas compris. C'est ça votre interrogation.
En fait, mon interrogation, c'est d'abord, on pensait que à la libération des otages, ce qui est le cas, la guerre allait s'arrêter et que de part et d'autre, aussi bien les populations palestiniennes que les populations israéliennes allaient commencer leur deuil et allaient commencer à se reconstruire. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est un déferlement de haine mondiale qui ne s'arrête plus parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de guerre, malheureusement, les populations sont toujours en souffrance. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une haine qui est en train une orgie antisémite qui est en train de déferler sur la planète, et j'ai l'impression que tout le monde ferme les yeux.
En fait, c'est un cauchemar réveillé, votre livre. Un cauchemar réveillé.
Exactement. Chaque matin, j'ouvre les réseaux sociaux, la haine est banalisée, et je me dis, mais quand est-ce qu'on va ouvrir les yeux? Quand est-ce qu'on va expliquer qu'on ne peut pas, aujourd'hui, à l'entrée d'une fac, avoir des banderoles interdites aux sionistes? Enfin, ça ne peut pas devenir normal.
Interdit au sionisme, on va revenir aussi sur les appels au boycott. Johann Sfar, par exemple, qui est ce dessinateur hyper populaire, mais qui se retrouve
pris dans un
appel au boycott. Mais avant cela, je voudrais qu'on écoute ce qui s'est passé là, juste il y a quelques jours, sur une plage à Deauville. Cette vidéo, je voudrais que vous la regardiez, que vous l'écoutiez quand vous êtes à la radio. Fou, écoutez les mots, c'est juste sur une plage, un homme qui traverse au milieu de tous ceux qui sont là, juste en famille, sur la plage, écoutez.
Il y a un juif ici qui part, j'encule ça, il va t'amener à la pute, tu vas faire ta chance, sale salope. Visite ta mère, tu vas voir, dans ta gueule, dis-moi toi, ça te fait ma vie. Il y a un juif ici qui part, j'encule ça,
il s'adresse à la foule et il crie « Ils sont où les juifs? C'est qui les juifs? Ici, ferme ta gueule, c'est qui les juifs? Ils sont où les juifs ?» Il s'en prend à la population, là, sur la plage.
Mais tranquillement, c'est complètement fou, c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure, c'est qu'il y a une espèce de... Les langues se sont déliées, on a ouvert une espèce de boîte de Pandore qu'on n'arrive plus à refermer, et aujourd'hui, quelqu'un peut marcher sur une plage et hurler « Où sont les juifs ?» les insulter, mais c'est pareil dans les facs, c'est pareil dans le métro, c'est pareil dans la rue... tous les jours, partout dans le monde. Et alors, ça ne veut pas dire que les pouvoirs publics font pas leur travail, que je crois qu'il a été arrêté, ce jeune homme.
Alors, il a été arrêté. Le parquet de Lisieux a ouvert une enquête pénale à la suite, je cite, des insultes et des menaces de mort à caractère antisémite proférées donc à Deauville. Aucune garde à vue pour l'instant, mais en effet, une plainte a été déposée une enquête sera ouverte.
Mais ce qu'il faut, c'est qu'il aille en prison, jeune homme. Il soit condamné, en tout cas, qu'il y ait une condamnation pour montrer l'exemple, pour que les autres qui auraient la stupidité de faire la même chose réfléchissent avant de le faire. On a l'impression que les gens oublient que l'antisémitisme, c'est un délit. Ce n'est pas une opinion, c'est un délit.
Tant que chacun restera enfermé dans sa douleur particulière, écrivez-vous, dans son indignation sélective, son silence confortable, les tyrans, eux, continueront de prospérer. L'empathie n'est pas un privilège identitaire, c'est une responsabilité universelle. Au fond, vous dites, chacun pleure sa propre petite communauté. Exactement. Et il n'y a plus ce moment de vivre ensemble. On peut aussi quand même... vous le reprochez à vous. Est-ce que vous n'êtes pas vous-même en train de vous enfermer dans votre douleur?
Alors, pas du tout, parce que j'ai la chance de faire des conférences régulièrement depuis la sortie de mon livre. Et ce que je dis, par exemple, quand je fais une conférence devant une communauté juive, je leur dis, si vous voulez qu'on reçoive de l'empathie, il faut savoir en donner. Et donc, le premier exemple, c'est par exemple, quand il y a eu ces 40 000 personnes, ces 40 000 jeunes qui ont été massacrés en Iran, je leur dis, il faut aller à la manifestation. Nous devons manifester notre empathie pour les autres. On ne peut pas...
Votre livre se termine d'ailleurs d'ailleurs sur l'Iran et sur votre espoir que le régime en Iran tombe.
Mais j'espère bien pour les Iraniens et j'espère bien pour le monde, parce que c'est l'Iran qui finance tous les proxys, que ce soit le Hezbollah, que ce soit le Hamas, que ce soit les Houthis. Toutes les guerres, toutes les attaques terroristes au Moyen-Orient sont financées par, en majeure partie par l'Iran. Il faut que ça cesse. Voilà. Mais ce que je voulais dire, c'est que l'empathie n'a pas de drapeau. Voilà. Mais le problème, c'est que si vous dites ça, vous devenez clivant alors que vous ne l'êtes pas. Et c'est exact. Par exemple, quand vous dites, je le dis, là, je me fais insulter depuis 2-3 jours parce que j'ai dit, on peut avoir de l'empathie, et j'en ai, pour les souffrances du peuple palestinien, et reconnaître que le Hamas est un mouvement terroriste horrible, comme on peut avoir, et on doit avoir de l'empathie pour le peuple israélien, et reconnaître que parfois, certains de leurs hommes politiques font des conneries. Voilà. C'est ça le truc.
Vous voulez dire, on peut aimer un pays sans aimer ses dirigeants?
Mais bien entendu. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on fait un amalgame.
Vous n'êtes pas aidé. C'est vrai que Benjamin Netanyahou, Ben Gvir, le ministre de la Sécurité intérieure, Bezalel Smotrich, la France elle-même a décidé d'interdire la venue sur le sol français du ministre de la Sécurité intérieure israélien.
Mais de toute
façon...
Comment
vous vivez ça, vous?
Alors, moi, ce que je ne comprends pas, c'est qu'il y a un deux poids deux mesures. Il y a quand même des guerres partout dans le monde. Je vois pourquoi on ne condamne pas, par exemple, le Sénégal, parce que aujourd'hui les homosexuels sont arrêtés les uns après les autres. Pourquoi il n'y a pas une condamnation générale du Sénégal? Et d'ailleurs, pourquoi? C'est comme si aujourd'hui, moi, on m'attaque tous les jours parce que je suis juif, donc je serais censé être un soutien du gouvernement israélien. Et pourquoi on ne dit pas aux célébrités sénégalaises, ah bah vous êtes soutien d'un gouvernement. Vous comprenez ce que je veux dire?
Il y a une obsession.
Je veux dire, 80% des sujets internationaux sont focus sur Israël. Pourtant, il y a une guerre au Soudan, il y a une guerre au Nigeria, il y a une guerre... Le monde est focus sur ce petit pays. Et d'ailleurs, c'est bien dommage pour les autres, parce qu'on dit toujours « no Jews, no news ». Il y a des pays qui aimeraient qu'on ait un peu un coup de projecteur sur leur malheur et leur souffrance.
Arthur, rassemblement ce soir à Marseille, sioniste hors de notre ville.
Mais c'est
à l'appel d'un collectif qui s'appelle Culture en lutte et qui demande à ce qu'il y ait une manifestation contre la venue du dessinateur Johann Sfar. Vous parlez des nouveaux inquisiteurs.
Alors, c'est complètement dingue. D'abord, en plus, alors là, franchement, s'attaquer à Johann Sfar, qui est un homme qui prône la paix, qui est un homme qui, tous les jours, fait des dessins contre Benjamin Netanyahou. C'est-à-dire que c'est l'allié de ceux qui viennent manifester contre lui. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, cette nouvelle inquisition, elle est dans la musique, elle est dans le cinéma, elle est dans le sport. Je veux dire, aujourd'hui, on refuse qu'un chanteur puisse se présenter à l'Eurovision, on refuse qu'un chef d'orchestre vienne à la Philharmonie. On refuse que l'équipe de France joue contre l'équipe d'Israël. Je veux dire, c'est la nouvelle, comme vous dites, la nouvelle inquisition. C'est la nouvelle inquisition. Mais il y a quand même un petit relent, parce que quand vous y avez marqué anti-sioniste.
Le titre du flyer qui invite à cette manifestation, c'est sioniste hors de notre ville.
Mais ça veut dire quoi, sioniste? Le sioniste, c'est le droit à l'autodétermination. Vous pensez que c'est ça? Ça veut dire ça, l'affiche? Vous pensez que ça veut dire vous êtes pour le droit à l'autodétermination, donc hors de notre ville? Arrêtons. Ils mettent sionistes parce qu'ils n'ont pas le courage de dire juif.
Pour vous, en réalité, c'est juif.
Mais bien entendu.
C'est ça?
Bien sûr. Vous pensez que quand les jeunes dans une manifestation, vous allez les voir écrit, ils disent je suis contre les sionistes, vous pensez que c'est contre la réalité du sionisme?
Votre lecture, d'ailleurs, de ce mot sioniste est visiblement la même que celle du maire de Marseille, Benoît Payan, qui refuse de céder à ses appels au boycott et qui a dit, nous ne trierons pas les artistes en raison de leur origine, leur religion ou leur couleur de peau.
Mais oui, mais c'est normal. Qui plus est des artistes français?
À Grenoble, c'est la DJ Barbara Butch que des groupes militants demandent à la mairie de déprogrammer. Elle est militante LGBT. Elle avait été ciblée par l'extrême droite qui l'avait vivement attaquée au moment des Jeux Olympiques de Paris. Elle était la figure centrale de ce festin qui était une reconstitution de la scène de Léonard de Vinci. Et désormais, c'est donc la section grenobloise de la France Insoumise qui s'attaque à elle, qui demande le boycott de sa participation à ce festival à Grenoble, parce qu'elle a signé une tribune que vous aviez vous-même signée pour soutenir la loi Yadan contre l'antisémitisme.
Et vous imaginez un peu où on en est? Imaginons, on a l'extrême gauche qui est censée lutter contre toutes les formes d'impérialisme et qui utilise exactement les mêmes méthodes. Si vous ne pensez pas comme eux, vous êtes soit un facho, soit vous êtes à boycotter. Je veux dire, c'est une forme. Et cette inquisition dont vous parlez, elle est digitale, elle est, on la sent, on la vit. Il y a beaucoup de comédiens juifs qui n'ont pas de travail aujourd'hui. Il y a beaucoup d'artistes qui ne trouvent pas de travail. Moi, j'ai un ami comédien à qui on a proposé un film, et c'est un grand comédien, et la réalisatrice lui a demandé, avant de te donner le rôle, je voudrais connaître tes positions sur ce qui se passe à Gaza.
Ça, c'était un film qui n'avait rien à voir?
Rien à voir. Strictement rien à voir. Une comédie romantique. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Il faut se le dire. Il y a un antisémitisme qui déferle en France et il faut ouvrir les yeux et lutter contre.
Vous racontez dans votre livre ce que quelques artistes vous ont dit. Si je viens, je vais me faire cancel par ma communauté. Oui. Vous parlez de carrières qui sont prises en otage par la lâcheté collective, un pseudo-boycott rampant et insidieux. Ça, c'est pas avec des affiches, mais alors, c'est beaucoup plus rampant.
Ça, c'est un truc tout nouveau. Je parle de trois artistes. Hein. Trois artistes amis qui m'ont appelé pour me dire « Je ne peux pas venir faire ton émission, parce que si je viens faire ton émission, je vais me faire massacrer par ma communauté. » C'est-à-dire que eux ont envie de faire l'émission, mais sous la pression de leur propre communauté, ne viennent plus faire l'émission. Il est violent ce boycott. Parce que je préférais le boycott du mec qui a une opinion, qui dit « Moi, je veux pas faire tes émissions, je suis pas d'accord avec toi. » Mais là, c'est
parce que boycott, l'opinion, ça se combat.
Ça se conflit.
On peut écrire des livres, on peut dialoguer. On peut dialoguer.
Exactement. Mais là, Et d'ailleurs,
vous dites, je leur ai répondu, je comprends, trois petits points.
Mais exactement. Qu'est-ce que vous voulez dire à quelqu'un qui me dit, je suis menacé de mort quand je fais tes émissions de télé? Eh ben, ne les fais pas. Donc, ça veut dire que c'est un boycott de la pression de la communauté. C'est ça qui est plus dangereux.
Est-ce que ça veut dire que la pression de la communauté, c'est aussi une forme de marketing? Est-ce que désormais, l'antisémitisme, c'est un marketing? Est-ce qu'il y a des parts de marché par communauté?
Écoutez, je sais pas, je ne crois pas, franchement, et je ne veux même pas l'imaginer. C'est pas le monde qu'on a envie de laisser à nos enfants. Mais disons qu'il y a une minorité qui est très bruyante et qui est très influente et qui met la pression, bien sûr.
La pression, elle se ressent comment? Est-ce que vous la ressentez aussi?
Non,
ou est-ce que vous, personne
pas.
Ne vous l'a jamais mise?
Moi, personne ne me l'a mis. Franchement, objectivement, j'ai pas ressenti ce type de pression. Si je reçois de la pression, c'est parfois de ma communauté, parce qu'il m'arrive de dire que je suis pas en accord avec Benjamin Netanyahu et que mes amis fâchent, je m'engueule. Mais pour le reste, non.
Mais pour le reste, personne ne vous a jamais reproché de ne plus être le même Arthur.
Ah, je m'étais dit à un moment peut-être que TF1 allait me dire, écoute, il va falloir que tu choisisses, est-ce que t'es un entertainer ou est-ce que tu veux prendre des positions? Et en fait, non, parce que je crois avoir réussi à manager les deux. Je continue à animer des émissions de télé, je continue à faire rire les gens, mais je suis aussi quelqu'un qui a le droit d'exprimer ce qu'il ressent, surtout à mon âge. Je veux dire, c'est un moment où on peut pas rester
vous
silencieux.
Vous espérez quoi? Vous attendez quoi? C'est-à-dire qu'on a quand même l'impression qu'il y a un tout petit peu plus d'espoir dans ce livre-là que dans le précédent. Avec peut-être aussi l'idée de dire merci aux Français, parce que vous avez été impressionné. D'abord, il faut le dire, votre premier livre, ça a été un énorme succès, 80 000 exemplaires vendus, parce que les Français sont toujours au rendez-vous quand ils vous regardent à la télé. Est-ce que ça, au fond, vous vous dites pas, peut-être que je regarde les choses
exactement
sur une lunette, mais que la France est là, les Français
exactement
sont là.
Exactement, vous avez entièrement d'accord, vous avez entièrement raison. Dans mon premier livre, je me plaignais d'un manque d'empathie, et en fait, après la sortie du livre, j'ai rencontré des gens, je suis allé en tournée dans toute la France, et j'ai vu des sourires, des regards, j'ai reçu des mots qui m'ont réconcilié avec ce que je pensais être un abandon de la France envers les Juifs. Et en fait, j'ai découvert que la France n'est pas un pays antisémite, qu'il y avait une minorité d'antisémites, et qu'elle était trop bruyante, et qu'il fallait la faire taire maintenant.
Arthur, vous avez parlé du boycott, évidemment, sur ces questions, ce boycott insidieux. Il y a une autre forme de boycott aujourd'hui, qui est un boycott aussi sur les questions judiciaires. Je ne voudrais pas finir cette émission sans vous interroger sur Patrick Bruel. Il a plusieurs fois fait des émissions avec vous. On a appris hier soir que RFM allait cesser de diffuser ses chansons, que Nagui le retirerait de N'oubliez pas les paroles, du catalogue de N'oubliez pas les paroles. Il nie, Patrick Bruel, mais il est accusé par le témoignage d'une trentaine de femmes et d'une dizaine de plaintes qui ont été déposées et d'enquêtes qui sont ouvertes. Est-ce qu'il faut continuer à jouer Patrick Bruel sur la radio? Est-ce qu'il faut continuer à avoir Patrick Bruel dans le catalogue des émissions? Ou est-ce que vous comprenez les décisions de RFM ou de Nagui?
Je crois qu'il faut d'abord, avant tout, respecter les victimes, mais aussi respecter la présomption d'innocence et laisser les juges faire leur travail. Qui suis-je pour dire s'il a raison, s'il a tort? J'en sais rien. Je dis juste que peut-être que c'est un peu prématuré, la décision de Nagui. Voilà. Mais une fois de plus, je ne suis pas juge.
Nagui qui dit, les émissions actuelles ont été enregistrées avant le dépôt des plaintes, mais depuis, nous avons suspendu en attendant la décision de justice. J'ai toujours soutenu la défense des enfants et des femmes victimes de violences, et quand la justice condamne, nous prenons les décisions qui coulent de source.
Mais il a été condamné ?
De fait, non.
Ben voilà.
Agnès Jaoui, à l'inverse, dit « Ça ne me choque pas qu'il soit sur scène et que des gens aillent aient le droit d'aller le voir. On n'a pas à les en empêcher, c'est à eux de se déterminer. Je suis absolument pas pour la censure, je suis contre cette folie purificatrice. » Est-ce que vous vous reconnaissez dans les mots d'Agnès Jaoui ?
Je suis d'accord. Tant que la personne n'est pas condamnée, il n'y a pas de raison qu'on puisse l'empêcher de faire son travail. Pour quelle raison ?
Mais quand la justice est très longue, quand les témoignages sont nombreux...
Mais pour l'instant, il n'est pas condamné. Maintenant, si vous allez voir un spectacle d'un artiste, quel qu'il soit, et qu'il y a une suspicion, bah, c'est votre responsabilité. Vous le savez. Franchement, je pense que tous les fans de Patrick Bruel sont au courant de la situation. Donc, s'ils continuent à aller le voir, c'est leur droit aussi. Je ne veux pas rentrer dans ce type de débat parce que ça devient très radioactif très vite.
Vous dites je suis radioactif.
Oui. Mais voilà, il faut avant tout penser aux victimes et avant tout laisser la justice faire son travail.
Et d'ailleurs, une information à BFM TV à l'instant, Patrick Bruel qui confirme une information de Mediapart. Patrick Bruel ne participera pas à la prochaine édition des Enfoirés. En accord d'ailleurs avec la production artistique de l'émission. Merci Arthur d'avoir répondu à mes questions ce matin.
Beaucoup.
Arthur J. Essebag, c'est comme ça que vous signez votre livre. Vous aviez besoin qu'on sache votre nom parce que votre nom...
Oui, c'est important. Je m'appelle Jacques et depuis 30 ans, on m'appelle Arthur et je me réapproprie quelque part mon identité, la vraie, au travers de ce livre.
Même la nuit ne veut pas de moi, cette audition.
Merci à Pauline.
Grasset, il est 8h47 sur RMC BFM TV. Ne bougez pas sur RMC, dans un instant, la semaine face à Cantelou. Nicolas Cantelou qui revient notamment sur le début de Roland-Garros.
RMC, une semaine face à Cantelou.
Cette semaine, Pascal Prache, le procureur du parquet national financier, était mon invité dans le face-à-face. Gérald Darmanin, le ministre de la Justice, a voulu réagir.
Oui, bonjour Madame Balherbe.
Oui.
Oui, c'est moi, Gérald Darmanin. B-A-D-I-N. Mais détendez-vous, Madame Balherbe, ça va bien se passer. Oui, j'ai écouté attentivement Pascal Prache, le jeune et brillant procureur du PNP.
PNF.
Non, c'est du PNP. C'est le parquet national financier.
Ah oui.
celui qui traite, tout le monde l'a compris autour de cette table, qui a des journalistes, c'est évident, monsieur Debade, monsieur Chypre, monsieur Bureau, bien sûr, celui qui, bien sûr, traite toutes les affaires financières. Bref, en un mot, celui qui traite toutes les malversations concernant les finances publiques. Et j'ai bien compris, bien sûr, que l'enquête qui touche Édouard Philippe est une enquête importante, une enquête qui était d'ailleurs un passage obligé pour monsieur Édouard Philippe.
Oui, enfin, pour être sûr qu'il soit blanchi avant de se lancer à la présidentielle.
Non, mais écoutez, blanchi ou pas, peu importe pour Édouard Philippe. L'essentiel, c'est qu'il est une affaire au cul. Vous savez que chez nous, à droite, il n'y a pas de carrière possible sans avoir sa petite affaire judiciaire. Ce ne sera pas le premier et pas le dernier, certainement. Regardez, Nicolas Sarkozy, Patrick Bacadi, François Pillon. Bissortefeu. Et aujourd'hui, voilà, Édouard Philippe.
Voilà. Il y a eu une perquisition à l'Élysée aussi, quand même, dans le cadre de l'attribution du marché des panthéonisations. Chaque panthéonisation coûte 2 millions d'euros.
Non, mais écoutez, sur ce sujet, on ne va pas bégoter quand il s'agit de nos grandes figures françaises. Prenez par exemple l'exemple de Madame Bey.
Madame Bey.
Vous connaissez Madame Bey?
Madame Veil,
pas la maman d'Abib Veil, l'entraîneur de l'OM. Je parle de Simone Veil.
Ah oui, Simone Veil, bien sûr.
L'avortement. Voilà. Bon, Simone Veil, on n'allait pas lui faire une panthéonisation au rabais. On n'allait pas acheter, des chipsters, de l'oasis et des apéricubes pour faire un petit cocktail. Non. Et bâcler la bise en bière dans une caisse en sapin. Non. Alors oui, on aurait pu faire, c'est vrai, de substantielles économies si on avait confié le marché à monsieur de Ligonnès pour qu'il l'enterre sous une terrasse. Mais est-ce que c'est comme ça qu'on honore l'écran de notre République? Je ne le crois pas, madame de Malherbe.
Merci beaucoup, monsieur Darmanin. Monsieur le ministre.
Mais détendez-vous, madame Malherbe. Vous voyez, l'interview est finie, tout s'est bien passé.
La maison du général de Gaulle est à vendre. Bonjour Dominique de Villepin.
Bonjour. Écoutez, vous savez, je suis un admirateur du général de Gaulle.
et je pense que ça aurait été réciproque si le général de Gaulle avait eu la chance de me connaître. Je le dis haut et fort ici devant vous. Il faut tout faire pour sauver l'héritage patrimonial du général de Gaulle. Alors moi, le premier grand gardien de la conscience gaulliste, moi, le dernier rempart contre l'effacement de ce qui a fait la France, je ferai tout, madame de Malherbe. Oui, tout ce qu'il m'est possible de faire pour habiter la maison du général.
Pour habiter la maison, vous allez vous installer à Colombey-les-Deux-Églises?
Non, je parlais de l'Élysée.
Ah oui.
L'Élysée outragé, l'Élysée brisé, l'Élysée martyrisé, mais l'Élysée bientôt libéré et habité. Oh, salut la Pauline.
Salut toi.
Hey. Chapeau la Malherbe, ça c'est une bosseuse. Hein, elle a pas le temps de traîner, d'aller voir les matchs à Roland. Du coup, c'est Roland qui vient à elle. Hein, voilà, voilà. Et oui, oui, parce que tu sais, le gars Lescure, c'est un collègue. On a dirigé la même boîte, Bercy. Apo, avec toi aussi, on est des collègues. Hein, aujourd'hui, on bosse dans la même boutique, BFM. Voilà. T'as vu comment je suis arrivé à BFM, moi, en star. Hein, carrément, avec mon émission à mon nom, Made in Mondebourg. Alors, je vais vous expliquer pourquoi qu'elle cartonne mon émission. C'est parce que c'est un concept totalement original. C'est un gars, Bibi, qui reçoit d'autres gars pour débattre avec eux. Hein, ouais. Et ça fait la différence.
Ah bah c'est sûr, animateur télé, bon, donc pour vous, c'est nouveau.
Bah oui, tu vois, télévision, économie, miel, glace, amandes, tu vois. Je suis une sorte de touche à tout, tu vois. Une sorte de Bruel, mais sans les mains.
Oh. Non, je...
Si je devais me résumer en une phrase, même si c'est difficile de me résumer en une phrase tellement le spectre est large, tu vois. Cette phrase, c'est plus une maxime, c'est... Et chaque matin, je me répète cette phrase, je me dis, tu sais Arnaud, c'est pas parce que t'es excellent nulle part que ça doit t'empêcher d'être à l'aise partout.
Oui, le tournoi de Roland-Garros a donc démarré dimanche. Yannick Noah, bonjour. Alors, bon, que pensez-vous des joueurs français?
Ouais. J'ai paumé mes feuilles. Ouais, non, ça y est, j'ai trouvé ma feuille. Il n'y en a qu'une qui est importante. Ça va, Pau? Ça dérange si j'enlève mes chaussures?
Non, pas du tout, vas-y.
Tu devrais le faire aussi, on est tellement mieux quand on vit pieds nus. Mm. C'est ce que je disais à Emmanuel Le Chypre. Écoute, Pau, tu veux vraiment qu'on parle des joueurs français?
Bah ouais, quand même, non?
Non, parce que franchement, ce matin, on est cool, on s'est réveillé de bonne humeur, vois, il fait beau. Mm. Le ciel est bleu, donc évitons tout ce qui peut générer de l'énergie négative ou même de la tension dans les trapèzes, tu vois.
Même.
Parle-moi d'autre chose que des joueurs français.
Mais vous, Yannick Noah, vous voulez pas parler des joueurs français? Vous voyez pas un Français l'emporter cette année?
Arrête, Apo. Là, t'es en train de me boucher un chakra. Va falloir encore que j'écoute des chants de baleine. Non. Si vraiment tu veux que je te dise un truc positif sur les joueurs français, oui. Je pense qu'ils peuvent aller très loin en deuxième semaine. Par exemple, à Punta Cana ou au Maldives. Après, ça te fait sortir dès le premier tour.